Voilà, donc on commence la dernière intervention. Très dur de passer après le camarade Bernard Diterlé parce que sa présentation était très 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 vivante. Et puis bon, bah, on parle de l'art avec différents domaines artistiques. Donc moi, ça va être beaucoup plus prosaïque. Ça va être plus prosaïque, ça va être un peu ardu puisque je vais parler en fait... Bon, de méthode, bien sûr, de la méthodologie de la recherche, puisque c'est ça le but de la manœuvre de ces trois demi-journées. Mais je vais voir la manière d'aborder de façon transversale la méthodologie de la recherche, ça va être de parler d'épistémologie. Voilà. Et quand même, parce que c'est un domaine abstrait, je vais l'illustrer de manière très concrète. Mais ce sera beaucoup moins varié qu'avec Diterlé, puisque moi je l'expliquerai, enfin j'illustrerai les problématiques générales de type épistémologique liées à la recherche en sciences humaines. Je vais les illustrer à partir de ma discipline, à savoir la didactique des langues cultures. Je suis hispaniste de formation initiale, j'ai été agrégé d'espagnol dans une vie antérieure. J'ai commencé maître de conférence à Bordeaux 3 d'ailleurs en espagnol, après professeur des universités à l'IUFM de Paris pendant 10 ans en espagnol, et maintenant je suis ici en français langue étrangère. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est la didactique générale des langues, ce qui fait d'ailleurs que la thématique du comparatisme m'intéresse aussi, puisque une didactique des langues, on dit d'ailleurs maintenant des langues cultures, intègre forcément la dimension comparatiste. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de didactique des langues cultures? Ça voudrait dire qu'il y a des choses comparables, et donc des choses différentes, mais en tout cas des opérations de comparaison qui sont intéressantes à faire entre la manière dont on enseigne, on apprend et on met en relation l'enseignement-apprentissage dans des langues différentes et dans des cultures différentes. Depuis 4 ans que je suis à Saint-Étienne, j'ai créé un centre de recherche en didactique comparée des langues cultures. Parce qu'il apparaît évident, si vous voulez, que la manière dont on conçoit l'enseignement et l'apprentissage des langues, cultures, dépendent des cultures elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas et on n'apprend pas, et on ne met pas en relation l'enseignement et l'apprentissage de la même manière en Asie qu'en Occident, par exemple. Voilà. Le thème central... Le mot-clé central de mon intervention, parce que c'est justement ce qui me semble relier fondamentalement la problématique méthodologique dans toutes les sciences humaines, c'est celle de la complexité. Donc je vais vous parler de la complexité sous l'aspect de ses incidences en termes de conception de la méthodologie de la recherche. Et encore une fois, ce que je vais dire est, me semble-t-il, suffisamment général pour correspondre à tout ce qu'on appelle les sciences humaines. Et d'ailleurs, les auteurs auxquels je vais me référer ne sont pas des didacticiens, mais des philosophes ou des épistémologues. Voilà, j'ai commencé, si vous voulez, à titre d'exergue, par la citation d'un peintre, je crois, Georges Braque. Hein, c'était l'un des prédécesseurs un peu du cubisme, autant que j'ai pu voir. Voilà. Et alors, malheureusement, je n'ai pas le contexte de cette citation, mais je la trouve tout à fait géniale. Il faut toujours deux idées, l'une pour tuer l'autre. Vous voyez très bien qu'est-ce qu'il y a par derrière, enfin d'un point de vue très abstrait, par derrière cette réflexion. Eh bien, c'est le rejet par principe de ce qu'on appelle justement la pensée unique. Pensée unique, c'est partir d'une idée... développer constamment une idée dans une seule perspective. Et ce qui s'oppose à la pensée unique, justement, c'est la pensée complexe. Et on verra que l'une des composantes de la complexité, l'une des difficultés qui fait à aborder la complexité, c'est que dans la complexité, il y a toujours du contradictoire. Et que donc la complexité ne peut pas s'appréhender, se maîtriser avec une seule idée, puisque si cette idée va marcher pour une partie de la complexité, mais ne va pas marcher pour l'autre. La notion de contradiction. Voilà. On va retrouver cette idée de « il faut toujours deux idées, l'une pour tuer l'autre ». On va la retrouver d'un point de vue très très concret au niveau de ce qu'on appelle en didactique les méthodes d'enseignement-apprentissage qui se présentent aussi par paires opposées. Vous avez la méthode directe et la méthode indirecte. La méthode directe, c'est vous enseignez, vous faites apprendre uniquement en langue étrangère. Eh bien, cette méthode ne peut être utilisée que parce qu'il y a la méthode opposée qui est d'utiliser la langue maternelle des élèves. On ne peut utiliser la langue étrangère que parce qu'au moment où ça ne marche pas, on a la méthode opposée qui nous permet de continuer à avancer. Voilà. Ça, c'est une idée fondamentale en termes de gestion de la contradiction. Disposer dans la tête de systèmes d'interprétation qui sont des systèmes incompatibles, hétérogènes, et qui pourtant vont être complémentaires. Ça nous amène directement à ça, à parler d'un point de vue très abstrait, de ce qu'on appelle une problématique de recherche. La problématique de recherche, justement, c'est un exemple très concret de gestion de la complexité au niveau d'un projet de recherche. Voilà, donc merci à Georges Barak pour cette belle citation. Il faudra un jour quand même que je me renseigne sur dans quel contexte situationnel et textuel il a sorti cette idée, quoi. Alors, j'ai fait une petite bêtise, là. Donc, je signale, ça c'est pour ceux qui écouteront aussi de la conférence sur le site, que cette citation de Braque, c'était le fichier numéro 1, numéro 01, voilà. Et puis, il y a le fichier numéro 02, que je ne vais pas ici commenter, puisque vous l'aurez sur le site. Il s'agit de la bibliographie qui correspond à mon intervention. J'ai mis ici dans les auteurs de référence un certain nombre d'auteurs qui constituent mes références en général. Les trois que j'ai mis en gras sont vraiment les auteurs dont je me suis inspiré très directement aujourd'hui pour construire cette petite conférence. Huberman et Miles sur l'analyse des données qualitatives, Edgar Morin, l'introduction à la pensée complexe, et Richard Rorty, l'espoir au lieu du savoir, introduction au pragmatisme. Je vous recommande en particulier le livre d'Edgar Morin, introduction à la pensée complexe, qui est réellement une introduction et qui permet donc de rentrer dans cette pensée de la complexité, cette épistémologie de la complexité de façon très simple. C'est un ouvrage qui est très accessible. Voilà. L'introduction au pragmatisme, c'est déjà un peu plus complexe, c'est de la philosophie anglo-saxonne. Mais enfin, bon, moi, ça m'a bien aimé. Et le bouquin d'Huberman et Miles, ce sont deux sociologues qui développent la méthodologie de l'analyse qualitative en sociologie. Or, il se trouve, si vous voulez, que du point de vue de la recherche, la didactique des langues est très très proche de la sociologie, puisque, au moins dans la conception que moi j'ai dans la didactique des langues cultures, la base de la réflexion et l'objectif de la réflexion, c'est le terrain. C'est-à-dire que on prend des données de terrain, on observe, on analyse, on interprète, on conceptualise à partir des données de terrain. Les données de terrain, c'est l'analyse des manuels, ce sont des enquêtes avec les enseignants et les apprenants, ce sont des observations de classe, ce sont des lectures d'articles sur la didactique des langues, c'est la lecture-analyse des instructions officielles de l'enseignement des langues. Vous voyez, il y a un ensemble comme ça, il y a un ensemble de sources qui vont constituer les données premières à partir desquelles on va construire une recherche en didactique des langues. Donc, c'est le terrain de l'enseignement-apprentissage, c'est la relation enseignement-apprentissage et tout ce qui l'entoure qui constitue la base de la recherche, et c'est en même temps l'objectif de la recherche. Je reviendrai tout à l'heure sur cette idée. La recherche en didactique des langues est une recherche un petit peu particulière d'un point de vue épistémologique, puisque c'est une recherche d'une part qui part de l'empirisme, de ce que l'on constate sur le terrain, et qui a aussi un objectif de retour sur le terrain. C'est-à-dire que ma discipline est une discipline d'intervention. On ne cherche pas seulement, contrairement à l'historien qui ne cherche pas à modifier le cours de l'histoire, un historien n'est pas un politicien, il ne cherche pas à modifier le cours de l'histoire, et bien sûr il n'a pas pour projet de modifier le cours de l'histoire passée, encore moins. Contrairement à cela, un didacticien est quelqu'un qui constamment se pose l'objectif d'amélioration du processus d'enseignement-apprentissage. Voilà. Et c'est pour ça que le pragmatisme m'intéresse beaucoup, en termes de référence philosophique. Publication personnelle en rapport avec cette conférence, et enfin, ouvrage de méthodologie de la recherche. Je vous disais que la didactique des langues, du point de vue en tout cas du recueil de l'interprétation et de la conceptualisation des données de terrain, est très proche de la sociologie. Notre terrain à nous, c'est la classe de langue et tout ce qui l'entoure. Et donc, je vous ai mis ici un certain nombre de références dans une collection dont on vous a déjà parlé. Je crois que c'est Jean-Bernard Vray qui a parlé du comparatisme. Dans cette collection, il y a eu un ouvrage aussi sur le comparatisme. Je peux vous dire, je ne suis pas sociologue de formation, mais je peux vous dire que les collègues de sociologie de la faculté SHS ici m'ont confirmé que ces quatre ouvrages sont effectivement des ouvrages très accessibles concernant trois techniques de recueil d'enquête sur le terrain, de recueil de données sur le terrain, à savoir l'enquête, l'entretien compréhensif, l'observation, et je ne sais plus, je crois qu'il y a ici un titre qui se répète, le questionnaire. Voilà. L'enquête, l'entretien, le questionnaire et l'observation. Voilà trois procédés de base en termes de méthode de recueil d'intervention en sociologie et en didactique des langues. Voilà. Et puis il y a deux autres ouvrages que je connais aussi qui me paraissent intéressantes. Bon, maintenant, vous n'utilisez pas tous l'enquête, l'observation ou l'entretien. Voilà. Alors, je vous ai déjà parlé que j'allais vous présenter le concept de la complexité par rapport, les implications du concept de la complexité par rapport à la conception de la recherche et par rapport à la notion de la complexité. Voilà la définition que, pour ma part, je donne de ma discipline, la didactique des langues cultures, discipline de description, compréhension et intervention. Donc il s'agit effectivement de constater ce qui se passe sur le terrain, mais pour véritablement constater, il ne suffit pas seulement d'observer des données brutes, il faut bien sûr les interpréter. D'ailleurs, on n'observe que par rapport à son système d'interprétation. Description et compréhension. L'objectif d'un didacticien n'est absolument pas de dire aux étudiants, aux apprenants, comme nous disons, et aux enseignants ce qu'ils doivent faire, mais déjà de constater effectivement, d'observer ce qui se passe réellement dans le processus conjoint d'enseignement-apprentissage. Donc, description, compréhension, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un objectif qui est celui de l'amélioration du processus. Les mémoires de master deuxième année recherche et de thèse en didactique des langues, en tout cas dans ma conception à moi, doivent toujours finir par une partie de proposition. Tout ce que l'on a analysé auparavant, ça aboutit en quoi, en termes de proposition d'amélioration à usage des enseignants, à usage des apprenants, à usage des auteurs de manuels, etc. La visée pratique est une visée absolument essentielle, constitutive de ma discipline. Cette description, compréhension et intervention porte sur quoi ? Elle porte sur un processus, c'est-à-dire sur une relation suivie continue entre qui et qui ? Entre un enseignant et des apprenants. Donc on est sur un processus intersubjectif d'enseignement-apprentissage, c'est-à-dire que à l'intérieur de ma discipline, il y a très clairement trois objets principaux d'études, d'analyse. C'est d'une part le processus d'enseignement qui a sa propre autonomie relative, les processus d'apprentissage aussi qui ont leur propre autonomie relative, et last but not least, la relation entre le processus d'enseignement et le processus d'apprentissage. D'ailleurs, pour vous illustrer ce que peut donner une pensée complexe en didactique des langues, je vous présenterai une modélisation de la relation enseignement-apprentissage, et on verra justement, c'est ça la pensée complexe, une pensée complexe appliquée à la réflexion sur le processus d'enseignement-apprentissage va forcément diversifier ces modes de mise en relation. On ne peut pas penser la complexité de la relation entre le processus d'enseignement et le processus d'apprentissage uniquement sur un mode de mise en relation. Il faut forcément utiliser des modes différents et de façon conjointe. De la même manière que hier on vous a dit, c'était quand même un des résultats des courses, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de mode, il n'y a pas de méthode universelle, il n'y a pas de méthode unique, et on pourrait même dire, dans la logique de la pensée complexe que je développe aujourd'hui, toute méthode unique est la pire possible. Voilà. Puisque ça vous amène à une perspective qui va être forcément partielle et partiale. L'idée que tout objet de recherche est forcément complexe, et qu'un objet complexe, ça peut, si vous voulez, se métaphoriser par, par un objet en trois dimensions. Un objet en trois dimensions. Voilà. Quelle est la meilleure manière d'aborder cet objet? Quelle est la meilleure perspective qui donne la meilleure représentation objective de cet objet? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Ben, vous allez dire, c'est tout à la fois. Et c'est non seulement chacune de ces perspectives, mais c'est l'enchaînement des perspectives. La perception complexe de la tridimensionnalité, elle n'est pas donnée par une succession de perspectives différentes, elle est donnée par le fait que vous passez d'une perspective à l'autre. C'est le mouvement de passage d'une perspective à l'autre qui permet, en l'occurrence, si vous voulez, d'avoir une image de la complexité. Vous faites tourner l'objet autour de vos doigts. Quelle est la meilleure perspective? Si vous cherchez de quelle touche il s'agit, la meilleure perspective, c'est ça. D'accord? Si vous êtes en train de l'utiliser, l'objet, ça va être ça. Vous êtes comme ça. Et si vous voulez le ranger sur l'étagère, bah, c'est une autre perspective qui va être privilégiée. Vous pouvez la mettre comme ça sur l'étagère, ça va prendre de la place. D'accord? Ou vous pouvez la mettre comme ça, à condition de vous rappeler que cette perspective, elle renvoie à une fonction qui est repérer cet objet sur l'étagère. Si vous utilisez différents objets de ce type-là, la meilleure perspective pour une fonctionnalité qui est repérer quel objet, hein, vous avez ça, puis vous avez la télé, puis vous avez autre chose, d'accord, hein, la meilleure perspective, ça va être ça. Parce que c'est ça qui va vous faire repérer, effectivement, de quel objet il s'agit, puisque vous en avez d'autres qui sont plus ou moins semblables. Si vous les mettez tous comme ça, vous pouvez les confondre. D'accord? Donc l'idée aussi qui est de là, c'est que il n'y a pas de meilleure perspective dans l'absolu, d'une part parce que c'est un objet complexe et que la perception de la complexité est donnée par le passage d'une perspective à une autre. Et une autre idée intéressante, c'est de dire qu'il y a des perspectives plus ou moins adéquates à ce que l'on veut faire. Si vous voulez repérer celui-ci parmi d'autres objets très similaires sur l'étagère, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Si vous n'avez qu'une de télécommande, vous pouvez très bien, ça vous permet de gagner de la place, de la mettre comme ça. Ok ? Mais si vous en avez plusieurs et que vous les mettez toutes comme ça, ce n'est pas la bonne perspective pour les discriminer l'une par rapport aux autres. Ok ? Donc l'idée que ce qui est lié à la perspective de la recherche, d'une part, l'idée que une recherche sur un objet complexe est une recherche qui forcément va passer d'une perspective à l'autre. L'idée qu'il y a une perspective privilégiée qui serait la meilleure, ce qu'on appelle le paradigme de l'optimisation, est un paradigme complètement inadéquat en sciences humaines. À chaque fois en sciences humaines, ce n'est pas un problème, c'est une problématique. Et on verra justement à quoi renvoie la notion et la différence entre problème et problématique. Okay ? Un problème, on cherche à le résoudre. Une problématique, on tourne autour. Il y avait un philosophe, dont je ne me souviens plus le nom, qui disait qu'on critique les gens qui tournent autour du pot. Et c'est une mauvaise critique. On tourne toujours autour du pot. Le problème, c'est de tourner autour du bon pot. Et en fait, c'est ça la définition de votre thématique de recherche. C'est de définir le pot autour duquel vous allez tourner pendant quelques dizaines de pages et quelques dizaines de journées. Et quelques centaines d'heures. Voilà. Bien, vous voyez que pour, pourquoi la didactique des langues, pourquoi l'objet de la didactique des langues est très complexe, c'est parce qu'on est sur du processus, on n'est pas sur du fixe, mais on est sur du flux. C'est plus difficile, c'est plus complexe de travailler sur du flux que sur du fixe. Pourquoi est-ce que c'est complexe? Parce que on est sur trois objets qui est l'enseignement, l'apprentissage et la relation enseignement-apprentissage, lequel objet est relié lui-même à l'objet d'enseignement-apprentissage qui lui-même est complexe. La langue est un objet extrêmement complexe. La preuve, vous voyez bien que la langue est une belle illustration de ce que je disais tout à l'heure, que aucune description linguistique unique ne permet d'aborder la complexité de la langue. Pourquoi est-ce que la langue a toujours, on a eu toujours des écoles linguistiques, des linguistiques différentes qui sont apparues? C'est parce qu'à un certain moment, on a considéré que c'était la bonne perspective privilégiée, voilà la linguistique structurale, voilà la solution. Okay? Et puis on s'est rendu compte d'un seul coup que cette perspective-là ne permettait pas de voir dans un texte, c'était ça la linguistique structurale, on n'arrivait pas à voir ça. Et donc on a inventé la linguistique énonciative. Puis après il y a eu la linguistique du discours. Et puis on s'est dit, et c'est maintenant la situation de se dire, mais toutes ces nouvelles linguistiques qui sont apparues par rapport à la grammaire traditionnelle, eh bien elles ne permettent pas de voir des choses que la seule grammaire traditionnelle permet de voir, à savoir la grammaire morphosyntaxique. Voilà. Et donc on est dans une situation épistémologique en linguistique maintenant, en tout cas en linguistique appliquée. Un didacticien, ce qui l'intéresse, il sait très bien qu'il n'y a pas de description unique, universelle, meilleure qu'une autre sur la langue, et donc il va recourir à des descriptions différentes, suivant ce qu'il veut faire, suivant ce que lui, en tant qu'enseignant, veut faire. Il y a des types de textes et des types d'objectifs pour lesquels il vaut mieux utiliser la grammaire morphosyntaxique. Vous avez des types de textes et des types d'objectifs pour lesquels vous avez intérêt plutôt à utiliser la grammaire énonciative, ou par exemple la grammaire textuelle, si vous travaillez sur un récit, vous avez intérêt à vous inspirer de la grammaire textuelle. Okay? Et puis en réalité, dans les manuels de langue maintenant, que ce soit en scolaire ou en français langue étrangère, qui est plutôt pour adultes, eh bien on voit bien que les manuels ont toujours utilisé simultanément, sur le même support unique, oral ou écrit, on voit dans les manuels qu'on utilise des approches différentes. Il y a l'approche morphosyntaxique, il y a une autre grammaire qui est apparue au début des années 70, une autre approche de la langue, que l'on appelle notionnelle-fonctionnelle, et puis il y a l'énonciative, le textuel, etc. Le problème n'est pas de savoir quelle est la meilleure approche, et je reviens à mon idée, le problème c'est de savoir quelle est l'approche qui est la plus pertinente et efficace, pour faire quoi, avec qui, pour quel objectif, à quel moment. Donc on passe du paradigme de l'optimisation au paradigme de l'adéquation. Donc, du point de vue de la représentation de ce que c'est une recherche en sciences humaines, là, il faut vraiment modifier votre représentation. Il n'existe pas, il n'existera jamais, pour aucune recherche en sciences humaines, la méthode idéale. Et je crois qu'on vous l'a dit suffisamment, avec des voix, elles aussi, différentes, en stéréo, en multistéréo, on vous l'a dit hier, et encore aujourd'hui, que le problème pour un chercheur, c'est d'arriver à maîtriser des méthodes différentes, de façon à les articuler, les combiner, les choisir, de la façon la plus pertinente et efficace par rapport à son objet de recherche et à son objectif de recherche. Voilà, et puis, langue-culture, la langue est complexe, je ne vous dis pas la culture. Parce qu'on a réussi à, on a essayé de définir des grammaires de la langue. Qu'est-ce que c'est une grammaire culturelle ? On trouve comme ça, on peut citer des règles socioculturelles. Dans tel pays, par exemple, quand on offre des fleurs, on les offre avec le papier autour, en Allemagne. Alors qu'en France, c'est très mal poli. On enlève le papier avant d'offrir les fleurs quand on est invité chez quelqu'un. En Allemagne, on l'offre emballé. On le déballe pas. Ok ? Bon, est-ce que c'est... À quel moment il faut arriver pour être poli dans une invitation ? Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui, pour des raisons de facilité, je leur donnais rendez-vous dans mon appartement à Paris, et je me suis retrouvé plusieurs fois à ouvrir en pyjama, parce qu'ils arrivaient un quart d'heure à l'avance. Dans leur culture asiatique, c'est très mal poli d'être en retard, Donc pour montrer qu'on est très poli, on arrive à l'avance. Manque de chance, en France, c'est très mal poli d'arriver en avance, en général. Hein? Si vous êtes invité, bon ça dépend des relations que vous avez avec quelqu'un, mais une invitation plutôt formelle, la règle du jeu, c'est toujours de laisser une sorte de délai de grâce à la maîtresse de maison. Parce qu'elle sera peut-être pas, elle serait peut-être pas prête. C'est très impoli en France d'arriver juste à la seconde dans une invitation formelle. Comment voulez-vous faire comprendre ça dans une autre culture? Voilà. Hein, donc vous voyez la complexité de l'objet langue culture, mais aussi la complexité de l'enseignant de langue culture. Ok? Voilà. C'est ce qui permet d'ailleurs. On parlait de méthode comparative tout à l'heure. L'un des intérêts de l'apprentissage d'une langue culture étrangère, c'est que vraiment on prend conscience du propre fonctionnement de sa langue et de ses propres règles culturelles. On en prend conscience quand on voit que les autres n'ont pas les mêmes règles. Sinon, ça nous paraît tout à fait naturel. Okay? Vous ne vous êtes jamais interrogé, par exemple, sur quelle est la distance à respecter entre deux visages lorsque vous parlez à quelqu'un. Mais il y a une règle que vous appliquez. La preuve, c'est que violez volontairement la règle, mettez-vous 5 cm de plus et observez le résultat chez l'autre. Hein? Il y a un exemple que je prends toujours. Je suis parti mon début de carrière au Venezuela, mon début de carrière à l'étranger, j'ai passé une quinzaine d'années, ça a été au Venezuela. J'étais agrégé d'espagnol, j'ai eu la chance, quand j'ai résilié mon sursis militaire, j'ai demandé la coopération civile, je me suis retrouvé comme lecteur dans une université du Venezuela, où je suis resté pendant 3 ans. Voilà. Et le premier mois, un mois et demi, 2 mois, on a commencé à se faire des amis, ça va très vite en Amérique du Sud, surtout quand on est jeune, hein, hein, et qu'on est beau et intelligent, bien sûr. Et donc, j'ai géré ça à la française, c'est-à-dire j'ai attendu d'avoir un espèce de stock d'amis de référence pour faire une invitation collective. J'avais déjà tout faux. J'avais déjà tout faux, parce que ça, c'est une sorte de réflexe culturel à la française, ça. On réunit ses amis, mais pour ça, quand on arrive dans un pays, donc on attend de s'être fait quelques bons amis, hein, et puis à la française, quand on est ami avec des gens, on veut bien aussi qu'ils deviennent amis entre eux. Ouais, c'est une espèce de faire le réseau, quoi. Hein, le concept de réseau d'amis. Voilà. Donc on décide avec ma femme, voilà, on fait l'invitation tel jour, et j'étais déjà agrégé d'espagnol. Hein. Mais il ne suffit pas de l'étudier de loin, la culture. Quand on y baigne, ben, on se rend compte comme ça de choses. Hein. Et donc je fais passer le mot à tous les amis en espagnol. Vengan a cenar tal día a casa. Venez dîner à la maison. Je vous invite à dîner à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés pile pour dîner. Et dès que le repas a été fini, tout le monde s'est levé et c'est parti. Et parti. Et je me suis regardé avec ma femme, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Ben, ce qu'on leur avait fait, c'était qu'on les avait invités à dîner, c'est-à-dire pour le moment du repas. Donc ils arrivent pour le repas, et comme ils sont invités uniquement pour le dîner, quand le dîner est fini, poliment, ils s'en vont. En fait, qu'est-ce qu'on découvre avec ça? C'est que quand on invite à dîner quelqu'un en France, quand on invite quelqu'un à dîner, en fait, le dîner implicitement n'est qu'un prétexte à passer le début de l'après-midi et la soirée. Voilà. Donc, j'aurais dû dire, c'est comme ça qu'on le fait à la vénézuélienne, mais dans tous les pays latino-américains, venez passer un moment à la maison à partir de 5 heures. Voilà. Alors ils viennent à 5 heures, et puis on commence à jouer, on discute, on commence à boire aussi, etc. Et puis à un moment, la maîtresse de maison arrive avec la gamelle en disant, eh ben maintenant on va dîner. Ah mais c'était pas la peine, si, c'est prévu. Ah bon, d'accord. Donc on mange, mais comme on a été invité à passer la soirée, une fois qu'on mange, on part pas. Puisqu'on a été invité à passer la soirée, donc on reste après le repas. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les codes socioculturels, et on est dans sa culture d'origine, on baigne complètement, on est imprégné comme une éponge de ces codes socioculturels. Et donc l'avantage d'apprendre une langue et une culture étrangère, c'est vraiment par comparaison, hein, c'est la méthode comparatiste en quelque sorte, hein, c'est la prise de conscience du fonctionnement de sa propre langue et de sa propre culture. Hein. Le fait de dire par exemple le masculin féminin, c'est en français, vous voyez, il y a le sexe qui est attaché à ça. Donc c'est une... Un, un gros choc culturel que d'apprendre que Das Mädchen, la jeune fille en allemand, c'est neutre. Hein, d'un seul coup, si vous voulez, la liaison entre le genre grammatical et le sexe, d'un seul coup, qui paraît presque naturel en français, en tout cas pour les gens, hein, cette liaison est remise en cause. Bon, je m'égare, mais bon, tout ça c'est parce qu'on est quand même à la fin des trois demi-journées, alors on a le droit de faire quelques petites anecdotes comme ça. Hein. Puis surtout que ce qui vient derrière, c'est quand même moins drôle. C'est la complexité. C'est la complexité. Donc j'appelle le fichier numéro 04. Il y a 1 et 2, mais sur le site je ne mettrai que le 02, parce que le 02, en fait, eh bien, c'est l'explicitation de ces différentes composantes de la complexité. Quand est-ce qu'on va dire qu'une question est complexe? Voilà. Qu'est-ce que c'est une question complexe? Eh bien, vous avez ici, vous pouvez définir par énumération le concept de complexité. Une question complexe, c'est une question dont les éléments constitutifs sont multiples, sont divers, sont hétérogènes, sont variables, sont instables, sont en interrelation les uns avec les autres, sont sensibles à l'environnement. Ça fait plus chic maintenant que de dire le contexte. Hein. Certains éléments de la question entrent en contradiction, sont antagonistes. Et enfin, la question ne peut pas être observée, analysée de façon purement objective. Le questionneur, en quelque sorte, faisant partie de sa propre question. La façon dont on questionne aussi en tant que sujet questionneur. Voilà. Alors, on pourrait décliner ça de multiples façons sur différents domaines de complexité. Je vous les laisse faire sur votre thématique de recherche éventuellement. Moi, je vais prendre un exemple très concret qui est le professeur devant sa classe. Le professeur devant ses élèves. D'accord ? Pourquoi est-ce que c'est complexe et pas compliqué d'enseigner? Pourquoi est-ce que c'est complexe de rentrer dans une relation enseignement-apprentissage? Parce qu'à l'université, on peut très bien, c'est pas très compliqué pour certains enseignants universitaires, ils enseignent, point. Voilà. Je parle bien de, ma référence est plutôt la didactique scolaire, d'accord, où il y a forcément une relation enseignement-apprentissage. Et donc, vous enseignez, mais en même temps, vous observez comment ça se passe dans l'apprentissage modifié par votre enseignement pour modifier en retour votre propre enseignement. Vous voyez déjà une relation complexe entre le processus d'enseignement et le processus d'apprentissage. Il n'y a pas l'enseignant d'un côté, stop, et l'apprenant de l'autre, stop, qui apprend. Hein. Un enseignant expert est forcément un enseignant qui rentre dans une relation que l'on appelle parfois dialogique ou récursive. Hein. C'est le terme qu'utilisent les épistémologues de la complexité pour définir la relation enseignement-apprentissage. Hein. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est complexe d'enseigner? Tout simplement parce que en face, il n'y a pas un élève, mais il y en a plusieurs. C'est tout bête, hein? Mais c'est plus difficile. On va dire que c'est plus complexe d'enseigner simultanément à 30 élèves qu'à un seul. Et d'ailleurs, l'augmentation du nombre d'élèves est ressentie spontanément par tous les enseignants comme un accroissement de la complexité, de la difficulté de leur travail. Ok? Avec un effet de seuil, cependant, hein, avec un effet de seuil. C'est-à-dire qu'en dessous de 5-10 élèves, la complexité va réaugmenter, plus ça diminue. Moi, ça m'est arrivé en lycée, j'étais prof en lycée, à Mont-de-Marsan, par exemple, il y avait une épidémie de grippe, elle n'était pas aviaire encore à l'époque, heureusement. Il y a une épidémie de grippe dans le lycée, et je me rappelle toujours ces deux collègues d'Espagnol, qui tiraient la gueule, comme ça, hein, parce qu'on n'avait que 10 ou 15 élèves par classe, quoi. Hein. Et parlant entre elles, je capte ce qu'elles échangent, et dis, oh là là, vivement que les élèves reviennent, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie avec 15 élèves en classe? Alors que la norme dans l'enseignement aux adultes, c'est 10-15. Dans l'enseignement aux adultes, la norme, c'est 10-15. Mais vous voyez qu'elles avaient développé des techniques d'enseignement qui était en adéquation avec un nombre important d'élèves. Et du coup, lorsque brutalement le nombre d'élèves diminuait, elle ne savait plus enseigner. Ok ? Voilà. Multiplicité. Il y a des élèves, il y a un grand nombre d'élèves. Ils sont différents les uns des autres. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas des clones. Des clowns parfois, mais pas des clones. Hein. Ils sont hétérogènes. C'est-à-dire, là je vous renvoie à ce qu'on appelle en psychologie les profils d'apprenants. Bon, vous avez, ils sont hétérogènes. Il y en a qui sont très motivés, il y en a qui ne sont pas du tout motivés. Il y en a qui veulent travailler sur un texte de foot, il y en a qui veulent travailler sur un texte, un autre truc. Hein. Il y en a qui sont intéressés par la grammaire, d'autres qui ne sont pas du tout intéressés par la grammaire. Oui. L'hétérogénéité. La variabilité. On ne sait jamais quand on rentre dans une classe comment elle va se terminer. Il y a un coefficient de variabilité plus d'instabilité, ça veut dire quoi? L'aléatoire. Il peut se passer dans 50 minutes d'heure de classe, il peut se passer n'importe quoi, à n'importe quel moment, qui va complètement changer par rapport à la programmation que l'on avait prévue. Vous faites, un exemple que je prends souvent, vous faites, parce que ça m'est arrivé moi, vous faites une phase de conceptualisation grammaticale intense. Là, vous leur dites attention, c'est très difficile, mais vous allez arriver à trouver. Donc on met des exemples d'une variation de structure grammaticale au tableau, hein, en espagnol en l'occurrence par exemple, et puis alors on dit alors comment, essayez de voir. Ils vont proposer une hypothèse sur le fonctionnement de la règle. Je dis non, regardez, est-ce que là elle marche? Ah ben non, elle marche pas. Bon, vous voyez, on est dans un moment de dépense cognitive intense. Comme on dit. Hein. Et puis d'un seul coup, vous avez un élève qui éternue 10 fois à la suite. Vous ne pouvez pas prévoir qu'il allait attraper froid sur le terrain de foot 2 jours avant. Et qu'à ce moment-là, dans votre phase de grammaire, vous ne pourrez jamais le prévoir. Tout le monde se met à rigoler. Et puis vous constatez que vous ne pouvez plus continuer sur cette phase-là. Bon, d'accord, on va faire autre chose. Alors, vous ouvrez vos cahiers et vous copiez. C'est souvent une façon de gérer la discipline, ça. Hein, c'est de passer à la copie à l'écrit. Et vous voyez des élèves qui chahutent, vous n'arrivez pas à les tenir parce que vous voulez qu'ils parlent, etc. Et puis d'un seul coup, ils deviennent sages comme des images quand ils grattent. Hein. Voilà. Donc la gestion, hein, pourquoi est-ce que c'est complexe une classe? Parce qu'il y a encore une fois de la variabilité et de l'instabilité. Il y a une variabilité qui est presque générale, c'est que même sur les élèves qui sont motivés, il y a au fur et à mesure que l'heure de classe se passe, on voit qu'il y a de plus en plus qui décrochent. De plus en plus qui décrochent. Hein. C'est-à-dire que le format de 50 minutes, c'est trop. Alors qu'est-ce que font les enseignants en fait? Ils font des variations d'activité, et des variations de rythme, et des variations de support, et des variations de contenu, de manière à réinjecter, si vous voulez, de la diversité de coûts cognitifs à l'intérieur des 50 minutes. Mais même un adulte ne se concentre pas 50 minutes suivies. D'accord ? Mais est-ce que vous restez 50 minutes penché sur un problème, la tête entre les mains, chez vous ? Ben non, d'un seul coup, vous vous dites, tiens, je voudrais bien prendre un café, là. Et puis, au fait, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut dans le frigidaire pour tout à l'heure? Et puis, vous voyez, on travaille comme ça par dépenses et ensuite économie, hein, constamment. Hein. Vous vous rendez compte de la torture cognitive que l'on inflige normalement aux élèves en leur faisant passer comme ça 6, 7 ou 8 séquences dans la journée différentes, dans des disciplines différentes, où chaque professeur au début de l'heure vous dit alors maintenant on se concentre un maximum. C'est pas possible. Hein. Un bon élève, c'est comme un bon économiste, un bon gestionnaire. C'est le principe d'économie. Voilà. Donc vous avez des stratégies différentes. Vous avez des élèves qui ne vont se concentrer dans l'heure de classe que sur quelques minutes qu'ils auront choisies. Ou parce que ça les intéresse comme ça. Puis vous avez une autre stratégie d'économie, beaucoup plus macro, qui est de dire, je ne fais rien en latin, ou je ne fais rien en anglais, je ne fais rien en espagnol, par contre je me concentre sur les mathématiques, les machins. Vous avez des principes d'économie comme ça qui sont appliqués de façon extrêmement différente. L'enseignant, c'est la même chose. Un bon enseignant, c'est celui qui en fait le plus avec le moins de dépenses. c'est toujours un rapport coût-bénéfice. Un rapport coût-bénéfice. L'interrelation. Pourquoi est-ce qu'une classe est un objet complexe, est une question complexe, pour reprendre l'expression que je disais tout à l'heure, et bien c'est qu'il y a de l'interrelation. C'est-à-dire que le comportement d'un élève va avoir des incidences immédiates sur les autres, parce qu'il y a des groupes dans la classe qui sont en interrelation, et parce que, last but not least, il y a l'interrelation massive entre l'enseignant et les apprenants. On est sur de l'interrelation. Dès qu'il y a de la relation, ça rajoute un niveau de complexité. C'est plus facile d'analyser deux objets séparés que deux objets interreliés. Forcément. La sensibilité au contexte, j'en ai donné un bon exemple tout à l'heure. Il a pris un coup de froid sur le terrain de foot deux jours auparavant. Et puis, ça a une incidence à un moment sur votre pratique de classe. Vous allez arrêter la séquence de conceptualisation grammaticale et passer à autre chose. Le contexte, c'est pas seulement ce qui se passe dans les quatre murs de la classe, c'est le bruit extérieur, c'est la qualité de l'ambiance entre collègues dans l'établissement, le fait que l'administration appuie ou pas les enseignants, par exemple. Voilà un élément d'environnement qui est absolument essentiel. Un prof ne peut pas faire cours de la même manière, ne peut pas entrer dans la même relation avec les élèves si l'administration se fout complètement de ses problèmes de discipline ou si elle l'appuie. D'accord ? Bon, le milieu social de l'élève, le quartier dans lequel vit l'élève, au niveau social global, l'image d'intérêt ou d'utilité que la société accorde à telle ou telle langue par rapport à une autre. D'accord ? Pourquoi est-ce que les élèves de milieux favorisés, ils ont souvent de meilleurs résultats scolaires ? Ben, c'est bien la preuve que les résultats scolaires ne sont pas seulement, ça ne se passe pas seulement entre les quatre murs de la classe, mais ça se passe dans un environnement global, si vous voulez. C'est-à-dire que la logique de réflexion en didactique des langues, c'est une logique systémique. On ne peut pas se contenter d'isoler un objet classe. L'objet classe est en relation constante avec l'établissement, le quartier, la famille, la société tout entière. D'accord ? Le contexte lui-même, ça je vous parle du contexte synchronique, synchronique. Il y a aussi un contexte diachronique, c'est-à-dire que ce qui se passe dans une classe est aussi fonction de ce qui s'est passé auparavant et de ce que l'enseignant veut qu'il se passe dans la classe suivante. D'accord ? Dès les premières heures de classe, déjà, il y a un vécu commun entre les élèves et le professeur qui fait que la relation enseignement-apprentissage va être fortement modélisée par ce vécu commun antérieur, en bien ou en mal. Et il y a une histoire que je raconte toujours, on va faire des anecdotes pour justement varier les rythmes de dépenses cognitives. Vous avez vu, c'est comme ça que font les enseignants. On prend un petit exemple. C'est pas seulement pour être concret, c'est pour reposer les ménages. Je fais une observation de classe un jour, c'était dans la banlieue parisienne, puisque j'ai été 10 ans à l'IUFM de Paris, et je m'assieds, parce qu'il n'y avait pas de place, je m'assieds à côté d'un élève. Et 8h05, je vois 8h05, c'est pas un hasard, la classe venait de commencer, je vois que, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'élève fait tomber son stylo au fond de la classe. Le prof l'a entendu, il se précipite sur l'élève, en hurlant. Il appelle le responsable de classe et il l'envoie chez le proviseur. Quand vous vous dites, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait, moi je ne ferai jamais ça, c'est pas les questions qu'il faut vous poser, vous comprenez. On va partir du postulat que l'enseignant est un être rationnel. Et donc, ça ne se démontre pas. Pour moi, c'est un postulat. En tout cas, en tant que didacticien, c'est un postulat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rationalité de l'enseignant. L'irrationalité, c'est le problème du psychologue ou du psychanalyste, mais pas du didacticien. Okay ? Donc voilà. Donc je me dis, plus la chose me paraît surprenante, plus je me dis, moi, j'aurais pas fait ça, et plus je me dis, il doit avoir de fortes raisons pour l'avoir fait quand même, puisqu'il y a quand même rationalité. Il avait de fortes raisons. Je vais aller le voir après. Vous pouvez l'imaginer peut-être. Oui.
On va remarquer.
Il y avait tous les lundis matin à 8h05, le même élève faisait tomber le même stylo au même endroit. Et ben, du coup, c'est le supplice de la goutte d'eau qui vous irradie. Vous savez, c'est un supplice. Hein. Vous maintenez la tête de quelqu'un, vous lui faites tomber une goutte d'eau sur la tête. C'est un des supplices les plus horribles qu'on ait pu imaginer. Chaque goutte d'eau en tant que telle, c'est rien du tout. Vous recevez une goutte d'eau parce qu'il commence à pleuvoir, vous ne la remarquez même pas. Mais la même goutte au même endroit de la tête régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous avez reçu la goutte, vous savez qu'il y a l'autre qui va venir. Et donc, c'était d'une semaine à l'autre que les élèves attendaient le 8h05 du lundi matin. Vous voyez l'effet halo, hein, l'effet environnemental de cet événement en soi extrêmement petit. Donc on est bien dans une logique environnementaliste. Hein. C'est l'effet papillon. Voilà, un battement d'aile d'un papillon dans la forêt amazonienne peut provoquer un typhon. Voilà, ben oui, les modèles qu'utilisent les météorologistes sont des modèles qui font que le moindre événement initial peut effectivement, dans certaines conditions, être le premier maillon de la chaîne de déclenchement de cataclysme. Voilà, c'est un petit peu le cas. La contradiction, ça c'est un élément très important de la complexité. Une question est complexe si elle est composée d'éléments différents qui font que la manière dont vous allez aborder une partie de la question n'est absolument pas valable pour l'autre. Et que si vous intervenez au niveau de l'intervention, vous allez résoudre une partie de la question, mais du coup vous ne pouvez pas en même temps résoudre une autre partie de la question, en même temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'antagonisme. Je vous prends un exemple concret, c'est dans tout sport, quand on commence à faire un sport. Alors moi j'ai fait beaucoup de foot dans ma vie, puis comme tous les gens à partir de 30-35 ans, quand on n'arrive plus à faire la deuxième mi-temps, il y a un moment il faut raccrocher les crampons. Parce que c'est pas génial pour les autres. Hein, si, on ne peut pas remplacer. Ça empêche un remplacement plus nécessaire de quelqu'un qui s'est blessé ou autre. Voilà, donc on raccroche les crampons. Et puis je me suis mis, comme beaucoup de gens à l'époque, au tennis. Voilà. Donc, cours de tennis. forcément, le seul truc qui était positif pour moi, c'était d'aller en avant. Parce que le footballeur, il va toujours vers la balle. Donc, quand un footballeur passe à prendre le tennis, il a un très bon réflexe. Il s'avance sur la balle. Mais il y a à peu près que ça, quoi. Hein, parce que pour le reste, la position des épaules, des pieds, du bras, etc. Vous voyez, bon, tout ça, c'était à mettre au point successivement. Hein. Alors, le professeur qui vous dit, alors moi j'ai une masse musculaire, comme on dit, importante. Voilà. Donc j'ai du mal à... Je tape comme ça, quoi. Hein, parce que ça me coûte musculairement de... Alors il me dit, la position des épaules. La position des épaules. Aujourd'hui, on travaille la position des épaules. Alors il se met en face, il m'envoie des balles. Et je me dis, la position des épaules, la position des épaules. Du coup, je ne sais même plus que j'ai une raquette dans la main. Et la position des pieds n'y est pas. Et donc, je rate la balle. En me concentrant sur une partie du problème, le reste du problème se dégrade complètement. Parce que je me concentre sur l'épaule et donc j'oublie complètement les autres éléments du problème. Bon, c'est une image un peu très concrète, si vous voulez, c'est complexe de monter une série d'automatismes quand on veut faire du sport. Monter une série d'automatismes, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs automatismes, ils sont hétérogènes. Quel est le rapport entre la position des épaules et la position du pied? La position des pieds. C'est deux problèmes tout à fait différents. Vous pouvez avoir la même position des épaules avec la position du pied différente, si vous voulez. Hein? Donc ce sont bien des questions qui sont hétérogènes. D'accord? Voilà. La variabilité, l'instabilité, bon je ne vous dis pas, en fonction de là où vient la balle, s'il faut reculer avant, s'il faut aller après, bon, hein? Je vous en passe. Hein? Voilà. Un professionnel de haut niveau, c'est un professionnel qui a monté une série complexe d'automatismes
qui lui permettent du coup de garder suffisamment d'énergie cognitive pour se concentrer sur des problèmes de haut niveau. Et un problème de haut niveau dans un sport, ou même dans la conduite automobile, c'est quoi le problème de haut niveau? Et là on retrouve la relation. C'est d'anticiper sur le comportement des autres. C'est pas par rapport à vous. Anticiper par rapport au comportement des autres. Je me suis surpris un jour, ça m'a fait tilt comme ça parce que je réfléchissais à ces problèmes d'automatisme. Quand j'ai l'impression, je double une file de voiture à l'arrêt, et que j'ai l'impression qu'une voiture, je crois voir une ombre dans la voiture. Et je me dis, elle va peut-être démarrer. D'accord ? Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que vous regardez ? Non mais dans l'objet voiture-ombre, sur quoi vous allez vous concentrer pour être le plus à même de vous avez déjà prévu que la voiture peut déboîter. Mais comment? Non, c'est une voiture qui sur, vers laquelle vous arrivez, vers devant. Elle est garée comme ça sur la file. Comment, quel est l'indice qui vous permet de voir qu'effectivement la voiture va démarrer? Hein? Oui, s'ils le mettent. À mon avis, c'est pas une bonne stratégie, hein, parce qu'une fois sur deux, ils mettent pas de clignotant. C'est la roue avant, pas qui tourne, mais qui braque. Hein? Ben, si vous avez une voiture garée dans une file, c'est le premier indice du mouvement. C'est le premier indice du mouvement. C'est la roue qui braque, la roue avant gauche que vous pouvez voir. D'accord ? Voilà. Bon, c'est complexe aussi la conduite automobile. Et justement, elle est tellement complexe que, comme pour un sportif de haut niveau, cette complexité ne peut se gérer que sur la base d'automatisme. C'est-à-dire, si vous devez réfléchir, si vous vous dites, attention, j'ai à freiner, au fait, c'est quelle pédale ? Là, vous n'avez pas le temps de deviner la manœuvre que va faire l'autre, je veux dire. Vous n'avez pas l'énergie cognitive pour vous demander ce que va faire l'autre. D'accord ? Quand on est un conducteur expérimenté, on sent presque le gars qui va tourner sans mettre le clignotant. Il y a une espèce d'intuition comme ça, là, de la manière de conduire. Par exemple, il ralentit un petit peu, hein, il commence à ralentir. Donc il y a une série d'indices comme ça qui vous permettent de faire des hypothèses sur le comportement de l'autre. Voilà. La contradiction. Je vous donne un exemple très concret. Un bon professeur de langue, je prends la didactique scolaire comme exemple. C'est un professeur qui sait faire parler, puisque déjà depuis un siècle, on est sur ce qu'on appelle le paradigme direct, c'est-à-dire qu'on considère que le meilleur moyen pour enseigner à parler, c'est de les faire parler. Voilà, c'est pour ça qu'on leur applique la question d'ailleurs, très souvent. Instrument de torture. Mais un professeur expert aussi, en didactique scolaire, c'est quelqu'un qui sait faire taire. Il sait faire parler, mais aussi il sait faire taire. Et vous voyez la notion de contradiction complémentaire. Un professeur de langue qui ne sait pas faire taire, il ne sait pas faire non plus parler. Parce que oui, ça va parler de tous les côtés, mais en français, et en montant au rideau dans la classe. Ce qui n'est pas le but de la manœuvre. D'accord ? Comment est-ce que vous gérez deux exigences contradictoires ? Eh bien, pas simultanément. Parce que sinon, c'est le double bind assuré. Et je vous donne un exemple de double bind que je présente toujours à mes élèves, parce que je l'ai vu, de mes yeux vus et de mes oreilles entendues. C'est une prof d'espagnol qui était complètement dépassée par la discipline. Je viens de voir que j'ai pas mon... Comment ça se fait-il que je n'ai pas... Je n'ai pas de courant. Alors, comme je viens de vous expliquer dans la présentation écrite, la deuxième partie de ma conférence n'a pas été enregistrée, alors que j'avais enregistré les conférences de tous les autres collègues. Et donc, c'est une belle illustration du dicton bien connu, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Cela dit, pour ne pas pénaliser les étudiants qui n'étaient pas là pendant ma conférence, je vais non seulement essayer de refaire exactement ce que j'ai fait à ce moment-là, mais je vais essayer d'en faire un peu plus. Si vous avez des bruits d'ambiance un peu bizarres, c'est parce que j'habite avenue La Libération à Paris, à Saint-Étienne, et que donc il y a quelques petits travaux et des passages d'ambulances ou de voitures de police. Donc voilà, vous m'excuserez à l'avance la qualité de l'enregistrement. On va dire que c'est un enregistrement complexe parce que vous allez aussi avoir des bruits qui viennent de l'enregistrement. Voilà, alors j'étais en train de vous parler de cette étudiante d'espagnol de deuxième année d'IUFM à Paris, que j'étais allé voir en visite conseil et qui donc, complètement dépassée par la discipline, ne pouvant plus la gérer, toute droite, rigide, toute pâle, debout à côté de sa table, a tapé plusieurs fois convulsivement sur cette table et a répété un certain nombre de fois « Taisez-vous et répondez à mes questions. Taisez-vous et répondez à mes questions. » Cette injonction paradoxale, bon, ça fait pas trop rigoler quand on peut visualiser et imaginer dans quelle situation elle était et comment elle le vivait, mais c'est une bonne illustration de ce que je voulais illustrer jusqu'à présent comme une des composantes de la complexité, c'est-à-dire la contradiction. Pourquoi la pratique d'un enseignant est complexe, et en particulier parce qu'il a des choses contradictoires, antagonistes à faire en même temps, et en l'occurrence, il faut qu'il fasse parler et il faut qu'il fasse taire. Alors, encore une fois, la seule manière de ne pas disjoncter, de ne pas se retrouver en double bind, c'est de ne pas se retrouver dans la situation d'avoir à dire les deux choses contradictoires en même temps à l'ensemble des élèves. Donc, ce que l'on fait d'habitude, c'est que, par exemple, si l'ensemble de la classe chahute, on va tous leur dire de se taire, et puis ensuite on va marquer une pause, et puis ensuite on va dire, bon, allez, maintenant, on y va, on reparticipe, voilà telle question, voilà de quoi on était en train de parler. Ou autre possibilité, c'est de dire aux uns de se taire et puis ensuite d'aller chercher d'autres à côté qui sont plus timides en leur disant voilà, allez, maintenant vous participez. Gestion de la contradiction. Sur le mode un peu moins tragique, autre anecdote, j'ai eu dans une visite d'espagnol aussi un collègue. Un stagiaire qui gérait la discipline avec un élève en disant « Por favor, usted cállese y hágame una frase con su puntillo imperfecto. » En français, « Vous, s'il vous plaît, ça va, ça suffit, vous vous taisez et vous me faites une phrase avec le subjonctif imparfait. » Donc on retrouve exactement l'histoire de la gestion de la contradiction. J'aurais pu gérer de façon... Eh ben voilà, vous entendez, vous voyez, une voiture de police par derrière. J'aurais pu illustrer d'autres manières la question de la gestion de la contradiction, elle aussi intéressante et structurelle. Par exemple, un enseignant doit à la fois être rigoureux dans la conduite collective de sa classe et en même temps, c'est ce que veut la méthode active, veut forcément utiliser ce que disent les élèves pour renvoyer à l'ensemble de la classe, faire en sorte que ce que disent les élèves et qu'il ne peut pas prévoir à l'origine puisse être intégré dans le processus de travail collectif. Donc gestion de l'aléatoire là aussi. Je vais voir un stagiaire d'espagnol en début d'année et je vois qu'il décline successivement toutes les questions qu'il a préparées imperturbablement, Les élèves se rendent compte très vite que, quoi qu'ils disent, ça n'a aucune incidence sur la suite, et donc très rapidement, tout le monde s'était. Alors, je vais le voir à la fin de la classe en lui disant, alors ça a marché, il me dit non, ils ne sont pas motivés, ils ne parlent pas. Et je lui dis, mais peut-être que pour motiver les gens à parler, il faut leur donner l'impression que ce qu'ils disent est important. Et valoriser la production d'un élève dans une classe, la meilleure façon de la valoriser, c'est de la renvoyer à l'ensemble de la classe, c'est quand on dit à un moment, oh là là, mais ça, j'y ai jamais pensé, je vous félicite d'avoir donné cette idée, on arrête tout et puis on en discute collectivement. Voilà, donc il l'a compris et je pourrais vous demander ce qui se passe 15 jours plus tard, quoi, lorsque je vais le voir. Il a préparé toujours sa petite batterie de questions, sauf que dès la première question, il a compris la leçon unique que je lui ai donnée dans sa tête, et donc à la première réponse, à la première question, dès qu'il a deux ou trois réponses, il essaye d'enclencher ses différentes réponses sur d'autres questions à lui et d'autres participations des élèves. Donc au bout de quelques minutes, mais ça va très très vite, personne ne sait plus où il en est, ni lui, ni les autres. Alors, donc il me regarde désespéré. Et à la fin de la classe, je vais le voir en disant, dites donc, il faudrait être beaucoup plus rigoureux. Et il écarquille les yeux en me disant, mais vous m'avez dit exactement la chose contraire. Vous m'avez dit le contraire l'autre fois, et qu'il fallait être plus souple. Bah oui, un enseignant de langue, c'est quelqu'un qui est souple et qui est rigoureux. Mais on ne peut pas être souple et rigoureux en même temps. Il n'y a pas de position médiane, de position d'équilibre idéal. Il n'y a pas une seule manière à la fois d'être souple et d'être rigide, de même qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire taire ceux qui veulent chahuter et de solliciter les timides mais qui voudraient bien participer. Voilà, la gestion de la contradiction qui nous renvoie à cet élément décisif de la complexité, qu'il ne peut pas y avoir, qu'il ne pourra jamais y avoir un mode unique de gestion d'un problème complexe. Je suis toujours sur le fichier numéro 04, 042 en l'occurrence, et c'est la dernière composante de la complexité que j'ai appelée l'inclusion de l'observateur. Un enseignant ne peut jamais observer de l'extérieur, de manière totalement objective, le comportement de ses élèves, puisque celui-ci est influencé par sa présence. Voilà. Vous lisez la suite, ça paraît relativement assez clair. Les élèves n'ont pas le même comportement lorsque le professeur est là que lorsque le professeur n'est pas là. Ce qui nous montre bien, c'est que l'observation est un des moyens de gestion de la discipline, c'est-à-dire pour changer le comportement d'un élève. Pour qu'un élève se tienne à carreau, comme l'on dit familièrement, vous montrez ostensiblement, même si vous parlez à tout le monde, que c'est lui et lui seul que vous observez. Donc il se dit, voilà, il est en train de m'observer, j'ai intérêt à me tenir tranquille. Dans ce cas-là, si vous voulez, très clairement, l'observation est un outil de modification du comportement de l'autre. Mais sans aller jusque-là, il est évident qu'il faut considérer la classe comme un système. La classe, c'est-à-dire les quatre murs, les élèves et l'enseignant. Il faut les considérer, c'est un système classe en fait. C'est-à-dire que lorsqu'un enseignant entre en classe, il crée de par sa seule présence un système qui est qualitativement différent du système antérieur. C'est une logique complètement environnementaliste. Ce que les écologistes ont apporté, par exemple, en termes et les éthologistes, en termes de connaissances, c'est que, par exemple, il n'y a pas une forêt qui est un lieu avec des animaux qui sont à l'intérieur de ce lieu, mais qu'il y a un système forêt dont les animaux eux-mêmes font partie. Vous introduisez de nouveaux animaux, la forêt se transforme. Vous retirez de nouveaux animaux ou certains animaux disparaissent et c'est l'ensemble du système forêt qui se transforme. Donc, quand on dit toujours on rentre dans une classe, c'est une façon de parler, un peu commode, mais qui renvoie aussi à une épistémologie en quelque sorte pré-environnementaliste. Il n'y a pas les élèves d'un côté et l'enseignement de l'autre. Lorsque un enseignant est avec des élèves, des apprenants dans une classe, ce qui modélise massivement, fortement, constamment ce qui se passe dans la classe, ce que l'on peut observer, ce que l'on peut interpréter, et la manière aussi dont on peut éventuellement proposer des améliorations, c'est bien un ensemble enseignant-élève. C'est une relation dans le processus d'enseignement et le processus d'apprentissage. Alors, je passe à un autre document que vous avez aussi donc parallèlement sur le site, et qui est le document numéro 5, qui s'intitule « Les trois paradigmes d'Edgar Morin ». Edgar Morin, qui est l'une de mes grandes références en termes de réflexion sur la complexité dans ma discipline, et en termes aussi, parce que les deux choses vont en même temps, en termes de conception de ce que c'est la recherche dans la discipline correspondante. La conception de la recherche, elle est forcément très directement liée à la conception que l'on peut avoir de la discipline, c'est-à-dire de ses paradigmes, de ses objectifs, de ses méthodes de référence, de la connaissance que l'on a, des recherches antérieures, etc. Alors, Edgar Morin ne présente nulle part ce tableau, c'est une sorte de synthèse que j'ai fait personnellement à partir de la lecture de cet ouvrage. Mais je pense que c'est relativement fidèle, parce que c'est validé par d'autres textes qu'il a écrits par ailleurs. Alors, à gauche, vous avez le paradigme scientifique. C'est le paradigme qui correspond aux sciences dites exactes. Les sciences dites exactes essayent de valider des hypothèses concernant la nature même de la réalité et le fonctionnement de la réalité, mais en réduisant cette réalité à quelque chose qui soit de l'ordre du reproductible, de l'ordre de la possibilité de le refaire en laboratoire, et de l'ordre du reproductible. Une nouvelle connaissance scientifique, elle n'est validée que par rapport à une expérimentation qui est présentée dans un article, et que les autres chercheurs dans le monde vont reprendre, refaire avec la même procédure, et ils veulent arriver au même résultat. Donc il y a l'idée, si vous voulez, fondamentale, à la fois que ce que l'on cherche, c'est à découvrir la réalité telle qu'elle est en elle-même, et deuxième idée fondamentale, c'est que c'est l'idée de la reproductibilité, c'est-à-dire qu'il est possible d'isoler les paramètres non pertinents de façon en laboratoire, à isoler des paramètres et à faire une expérimentation qui permette à tout le monde, n'importe où dans le monde, de vérifier effectivement que ces paramètres étant isolés, cette procédure étant utilisée, on arrive exactement au même résultat. Ce type de rationalité scientifique est complètement inimaginable en didactique des langues, pour les raisons que j'ai expliquées en réalité, pour les raisons que j'ai expliquées antérieurement, c'est-à-dire en raison des différentes composantes de la complexité, et en particulier cette composante de la complexité qui est la sensibilité à l'environnement. Il n'est jamais possible de reproduire deux fois la même expérience didactique. C'est complètement impossible, parce que même si ce sont les mêmes élèves, avec le même document, avec les mêmes objectifs, en fait ce ne sont pas les mêmes élèves. Ils sont un jour différents, l'un sera d'une autre humeur, l'autre d'une autre humeur, l'un sera malade, l'autre sera plus malade. L'enseignant lui aussi aura eu sa propre variabilité, et encore une fois, variabilité et caractère, et instabilité, caractère aléatoire, les différentes composantes de la complexité dont j'ai parlé auparavant. Alors, ce que dit Edgar Morin, c'est que le paradigme scientifique a parfaitement sa légitimité à l'intérieur de son domaine de référence, qui sont les sciences exactes. ce qu'il critique, c'est que dans d'autres types de sciences, en l'occurrence les sciences humaines, et en tout cas pour la didactique des langues, ce qu'il dit me paraît tout à fait évident, et c'est pour ça que pour moi c'est un auteur de référence dans ma discipline. Ce qu'il critique, c'est le transfert indu de ce paradigme scientifique dans un domaine qui relève de la complexité, et la complexité dans les sciences humaines, merci la palisse, c'est surtout lié au facteur humain. Alors le facteur humain ne peut jamais être complètement isolé de l'expérimentation. Il y a un effet très connu que les sociologues en entreprise, je crois américains, ont mis en évidence dans les années 30, at Warren, je crois, du nom d'une ville où il y avait une entreprise, où les sociologues avaient monté une expérimentation. Et ils se sont rendus compte pour la première fois dans l'histoire que, dans l'histoire de la sociologie et de l'expérimentation, que le fait même de faire une expérimentation surmotivait à la fois les expérimenteurs, mais aussi les expérimentés, et que du coup, les résultats de l'expérimentation n'étaient absolument pas généralisables, n'étaient pas absolument transposables en termes de généralisation. Quand on connaît le poids, l'importance de la motivation en didactique des langues, on peut très facilement comprendre que toutes les expérimentations lancées, et plus ou moins suivies, et encore moins très peu évaluées par le ministère en didactique des langues depuis un demi-siècle, n'a absolument aucune pertinence en termes d'accroissement de la connaissance vis-à-vis de ce que pourrait être une généralisation correspondante. Voilà, le paradigme de la simplification, donc c'est cette colonne médiane de ce fichier que vous avez sous les yeux. Donc je rappelle que c'est le numéro 05. Et puis, ce que propose Edgar Morin, à la suite d'autres, mais il a fait une très belle synthèse, c'est un paradigme qu'il appelle le paradigme de la complexité. Le paradigme scientifique aussi travaille sur la complexité, seulement il légitime en quelque sorte la simplification de la complexité en l'explicitant. Et c'est le lieu du laboratoire. Le laboratoire qui est à la fois un lieu où on essaye d'approcher la vérité réelle, mais on sait très bien que le laboratoire, ce n'est pas la réalité. Et un certain nombre de scientifiques, par exemple, les éthologues, par exemple, se sont bien rendus compte que on ne pouvait pas analyser le comportement animal en laboratoire. Pavlov trouvait que les pigeons, les rats qu'il utilisait, ils étaient assez cons. Quand on observe des animaux dans leur environnement, ils sont beaucoup plus intelligents. Mais vous le mettez en plein Sahara, je peux vous dire qu'il donne une image assez désolante de l'intelligence de l'humanité. Vous mettez un Touareg au centre de Saint-Étienne, vous trouvez aussi que que l'homme n'est pas très intelligent. On ne peut pas dissocier les comportements, ni les objectifs, ni les manières de faire, ni les modèles. On ne peut rien dissocier de ce qu'un homme fait, de l'environnement dans lequel il est. Les sciences humaines, par définition, essayent d'observer, d'analyser, de comprendre, éventuellement de prévoir ce que font les hommes, et les hommes sont toujours dans un environnement humain, ils sont toujours avec d'autres. D'où la très grande difficulté, le problème du statut, si vous voulez, de l'expérimentation en didactique des langues, comme dans d'autres sciences humaines. Il n'y a pas d'expérimentation en sociologie. Voilà, vous avez donc à droite ce qu'on appelle le paradigme de la complexité. L'approche systémique dont on a déjà parlé, l'union de la distinction et de la disjonction, la rationalité ouverte. Et puis, j'attire seulement votre attention sur les deux derniers niveaux de la dernière colonne à droite. On tourne autour du problème de la vérité, en passant de perspective en perspective, de vérité partielle en vérité partielle, On retrouve cette idée fondamentale dont je vous parlais tout à l'heure, avec cet objet en trois dimensions, en l'occurrence la commande d'ordinateur ou de vidéoprojecteur que j'avais en main. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de vérité en termes de perspective unique sur un objet en trois dimensions. Ça dépend d'une part de ce que l'on veut faire avec cet objet, et là on avance sur ce que je vais dire tout à l'heure en concernant le pragmatisme. L'idée de pragmatisme, c'est-à-dire de ce que l'on veut faire, son projet de recherche, que l'idée que le projet de recherche forcément détermine très légitimement à la fois les méthodes que l'on va utiliser, à la fois la conception du domaine que on va construire en fait. On choisit ses méthodes et on construit son domaine de recherche en fonction de ses objectifs de recherche. Contrairement à ce que fait très généralement un étudiant débutant qui a plutôt tendance à s'appuyer sur ce qui a été fait déjà. Donc là, il y a une espèce de rapport dialogique un peu difficile à vivre au départ, entre le fait de dire je m'appuie sur tout ce qui a été fait auparavant, et en même temps l'idée que si véritablement je me constitue en tant que nouveau chercheur, je ne fais pas exactement ce qui a été fait auparavant, je le fais différemment. Je reviendrai peut-être sur cette idée. Dans ce même tableau du schéma numéroté 05, complètement en bas à droite, vous avez l'énoncé, on sait que le sujet est toujours présent dans l'observation de l'objet et on recherche des procédures intersubjectives d'objectivation. J'en ai parlé aussi tout à l'heure lorsque je disais que le professeur devant sa classe ne pourra jamais observer objectivement la classe, les élèves qu'il a devant les yeux, dans la mesure où ce qu'il observe devant lui dépend en particulier de son propre comportement, de sa propre personnalité, de ce qu'il a décidé de faire à ce moment-là, de l'ensemble des relations historiques qu'il a eues auparavant avec ses élèves. Voilà. Donc tout ça, c'était la présentation de cette notion de complexité, et j'ai illustré encore une fois les différentes composantes de la complexité à partir d'exemples concrets pris en didactique des langues. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas de cette spécialité. Ce qui me console un petit peu à l'avance, c'est que de toute façon, tous ceux qui sont devant moi avaient été élèves et donc avaient vécu cette relation enseignement-apprentissage, sinon comme enseignant, du moins comme élève. Alors je pense que ce discours est à peu près compréhensible. Le document suivant, c'est le document numéro 06, qui est intitulé « Méthode des oppositions méthodologiques fondamentales en didactique des langues ». C'est un document que je n'ai pas commenté par manque de temps ce matin, donc samedi, au cours de ma conférence. Donc je vais très vite quand même, j'ai uniquement parlé à une occasion de l'opposition entre la méthode indirecte et la méthode directe. C'est le numéro 2 de ce que vous avez sous les yeux si vous avez appelé le fichier. Et je disais que le problème n'était pas de savoir quelle était la meilleure méthode. Est-ce qu'il fallait parler uniquement, prenons le cas d'un enseignant français d'anglais, langue étrangère en France, son problème n'est pas de savoir si c'est mieux de parler anglais ou de parler français, de toute évidence, c'est de savoir à quel moment il vaut mieux ne parler qu'anglais, à quel moment il vaut mieux ne parler que français, et à quel moment, ou globalement, il faut articuler l'utilisation du français et l'utilisation de l'anglais, l'utilisation conjointe étant ce qu'on appelle la traduction. J'ai par ailleurs fait une analyse sur les différentes fonctions de la traduction depuis un siècle en didactique des langues. Il y a une dizaine de fonctions différentes. Et donc il y a une dizaine de bonnes raisons d'utiliser la traduction, d'utiliser la langue maternelle des élèves en classe de langue, mais il y en a autant, sinon plus, de ne pas l'utiliser. Donc encore une fois, le problème n'est pas de décider quelle est la meilleure méthode, mais de savoir quelle est la méthode la plus pertinente, la plus adéquate, c'est-à-dire la plus pertinente et efficace au moment où l'on est en fonction de l'ensemble de ces paramètres d'environnement. Voilà. Cette réflexion peut être faite sur chacun des couples antagonistes de ces méthodes qui correspondent, si vous voulez, à l'ensemble des méthodes qui ont été utilisées depuis un siècle en didactique scolaire des langues vivantes étrangères. Je prends le mot méthode ici dans le sens très, très précis de principe unique permettant de définir, de découper une cohérence méthodologique minimale. Bon, je passe très rapidement au fichier suivant, que je n'ai pas non plus présenté lors de ma conférence, mais vous avez compris que c'est une façon de me faire pardonner un peu mon bug technologique. Je vous disais que l'une des conséquences de la prise de conscience de la complexité, c'était qu'il ne pouvait pas y avoir une perspective unique, privilégiée, décisive, sur quelque objet complexe que ce soit. C'est exactement, si vous voulez, cette prise de conscience qui a généré dans ma discipline, à la fin des années 60, début des années 70, le passage de ce que maintenant on appelle la méthodologie à ce que l'on appelle maintenant la didactique. La didactique des langues, c'est en réalité, si vous voulez, c'est une conception complexe de la recherche dans ma discipline, qui vient d'une époque où on s'est rendu compte que les questions de méthode, de comment on fait, à quel moment, ces questions-là n'avaient pas de réponse universelle, permanente, définitive. Et que un bon enseignant était capable de dire, voilà, je fais ça, parce que je me réfère à telle description linguistique et qu'elle me paraît la plus pertinente. Je fais ça parce que je suis en train de viser tel objectif. Je fais ça parce que les élèves, par exemple, les élèves, ils ne sont plus capables de se concentrer. Il y en a un qui vient d'éternuer 10 fois. Voilà. Donc il y a un paramètre environnemental qui vient de changer. Et donc la manière que je vais le faire, et même en l'occurrence les contenus, le type d'activité que je vais faire, je vais passer d'une activité à l'autre et d'une méthode à l'autre. Je vais la faire écrire alors que je voulais qu'ils participent, tout simplement parce qu'il y a un élément de l'environnement qui vient de changer. Les matériels, bon ça c'est un petit peu plus long à expliquer si vous voulez, mais dans la relation enseignement-apprentissage, en tout cas en didactique scolaire, le manuel est un médiateur absolument essentiel, qui rajoute énormément à la complexité, puisque parce que d'abord il vient s'interposer, si vous voulez, donc non pas s'interposer, excusez-moi, faire un troisième terme dans la relation enseignement-apprentissage. Il y a l'enseignant, il y a l'apprenant, et puis il y a par derrière l'auteur de manuel, qui est une sorte d'enseignant qui n'est pas présent, mais qui peut être tout à fait prégnant. C'est-à-dire que un enseignant qui suit à la lettre les différents exercices proposés dans un cahier d'exercices, qui est-ce qui enseigne là? Qui est-ce qui enseigne? C'est beaucoup plus l'auteur ou les auteurs de ce cahier d'exercice que lui-même. Voilà. Donc ça rajoute à la complexité, et j'aurais pu aussi continuer, si vous voulez, cette réflexion concernant les deux autres domaines que j'appelle méta-méthodologiques, qui sont l'évaluation et les pratiques. Ce que je veux dire simplement, c'est que la maturation de la didactique des langues s'est faite par prise de distance par rapport à l'élément méthodologique. Dans l'élément méthodologique, au centre, dans ce positionnement méthodologique, on essaye de repérer des problèmes de méthodologie et on essaye de définir les meilleures manières, a priori, de résoudre ces problèmes méthodologiques. Ce n'est plus du tout le cas dans la perspective didactique, qui est méta-méthodologique. Dans la perspective méta-didactique, au contraire, on ne cherche pas à résoudre un problème parce que l'on sait que ce problème, c'est une problématique. Et que donc, il faut dépasser la question immédiate en termes de « j'ai un problème, comment le résoudre ?» Il faut dépasser en termes de « quel est le questionnement correspondant ?» La mécanique de questionnement sur ce qui apparaît au départ un problème. Ce n'est pas un jeu intellectuel parce que si effectivement il n'existe pas de problème isolé, que chaque problème est forcément en relation immédiate, constante, avec l'ensemble de son environnement, lequel est complexe, etc. La compétence de résolution d'un problème passe d'abord par la compétence de questionnement. C'est-à-dire, ce n'est que si vous questionnez, vous êtes capable de poser un maximum de questions, que finalement vous serez capable de donner la bonne question adéquate à ce moment-là, avec vos élèves, dans cette situation, etc. La compétence de questionnement, c'est la compétence de problématisation, justement, et ça correspond tout à fait à la compétence que l'on attend d'un chercheur. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Alors, je peux passer maintenant, si vous voulez, à... Bon, je vous mets sur votre site aussi, affiché qui ne s'intitule pas 071, c'est celui que je viens de commenter, mais le 072, qui est en fait une sorte de résumé très synthétique des idées que je viens de vous développer. Et je passe au fichier numéro 08, qui s'intitule compliqué, enfin le titre du fichier c'est compliqué, complexe, problème, problématique. Je suis donc sur ce document numéro 08 qui s'intitule compliqué complexe. Donc il s'agit de l'opposition entre le concept de compliqué et le concept de complexe, qui me paraît, cette opposition me paraît véritablement fondamentale en termes de formation de chercheurs débutants. Je lis tout simplement ce qu'il y a sur ce fichier et qui décline en quelque sorte. Sur le thème, sur le problème de la question, de l'objet et de la problème, et du problème, ce qui peut être considéré comme compliqué ou comme complexe. Une question compliquée est une question dont on n'a pas encore la réponse, mais dont on pense que celle-ci peut être produite. Alors qu'une question complexe est une question qui n'est pas orientée processus, la recherche de la réponse, mais orientée produit, la recherche de la réponse, mais orientée processus, elle relève en réalité d'un questionnement permanent. Alors, ce qui est dit là, l'est dit de façon un petit peu synthétique, et j'aurais peut-être dû plus clairement opposer la notion de compliqué à la notion de complexe, en la renvoyant à ce qu'on appelle l'orientation produit d'un côté, et l'orientation processus de l'autre. Une question compliquée est une question orientée processus dans la mesure où ce que l'on cherche, c'est un résultat final, un produit final qui est la réponse. Alors qu'une question complexe est une question orientée processus parce que ce que l'on cherche n'est pas la réponse parce qu'on sait qu'elle n'existe pas, ou en tout cas pas de réponse unique, plurielle, universelle, globale, permanente, ce que vous trouvez à la fin de ce fichier texte, mais ce que l'on sait, c'est que cette question complexe ne peut relever que de réponses, et je renvoie aussi à ce qui est en dessous de ce fichier, à savoir ne renvoie qu'à des réponses plurielles, locales, partielles et temporaires. Et donc, comme je le disais précédemment, une question complexe est orientée processus dans la mesure où tout simplement l'enjeu de la question n'est pas la réponse, mais le questionnement lui-même. Elle relève d'un questionnement permanent. Tout simplement parce que pour les raisons que j'ai expliquées auparavant des composantes de la complexité, on ne sait jamais, on sait très bien qu'il n'y a pas de solution unique, universelle, globale, permanente. Et que donc, on a de chances de trouver en contexte, en environnement, en situation, une des réponses qui va se révéler la plus pertinente et efficace, que si auparavant, on s'est posé le maximum de questions correspondantes. Je prendrai l'exemple auquel les étudiants d'art plastique seront peut-être sensibles, l'exemple d'un photographe professionnel. On regarde une exposition d'un photographe professionnel, 50 photos absolument plus splendides les unes que les autres, on s'extasie, on se dit, mais comment ce type peut faire ces photos aussi géniales? Ce qu'on oublie, en tout cas actuellement, avec les moyens techniques dont on dispose, c'est que pour une de ces photos exposées, il y a dû en avoir quelques centaines. Quelques centaines qui ont été prises sur la base de « ben voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça la bonne photo ». On ne sait pas, on la tire, on verra après. Et la qualité du produit final, en réalité, n'est pas liée à une espèce de compétence qui permettrait de savoir en temps réel ce qu'il est possible de faire et quelle est la meilleure photo à prendre, mais à une espèce de compétence beaucoup plus générale et beaucoup plus multiréférentielle qui du type de l'intuition qui peut se tromper ou pas, mais on prend énormément de photos, mais c'est pas tout à fait n'importe quoi. Et à la fin des courses, il y en a quelques-unes qui se révèlent des photos géniales. On va dire des photos publiables, montrables, que l'on peut montrer dans une exposition. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la logique d'un chercheur est exactement similaire. Et ça, je ne l'ai pas dit ce matin. On a de temps en temps, ou on a peut-être dans sa carrière de chercheur, deux ou trois idées géniales, dans la mesure où on s'est mis en mesure, de façon très humble, en mesure de produire 100 idées qui sont complètement stupides. La production des questions est directement liée, détermine directement la qualité de la réponse finale, la quantité de questions que l'on se pose préalablement, donc, c'est ce qui permet éventuellement de trouver la bonne réponse, de la même façon que le mitraillage photographique, modélisé quand même par une certaine compétence professionnelle. Encore une fois, il ne suffit pas de tourner en rond autour de soi en mettant son appareil en prise demi-seconde. C'est pas ça que je veux dire. Il y a bien quand même une compétence par derrière. Mais cette compétence-là, on sait que cette compétence-là ne nous permet pas d'appuyer exactement au bon moment, avec le bon angle, sur la bonne photo. Il y a forcément des essais-erreurs. On recherche par essai, en d'autres termes, si vous voulez, on recherche par essais-erreurs. Et c'est l'idée fondamentale du travail sur les hypothèses ou les questions de recherche. On se fait un tas d'hypothèses, on se pose un tas de questions. Ça veut dire quelque part qu'on reconnaît humblement qu'on ne sait pas si ces hypothèses vont être valides, ou si ces questions, non seulement ont des réponses, mais si ces questions sont pertinentes ou pas. Voilà. La compétence du chercheur, et c'est ce qu'on attend de vous dans cette année de master de recherche, ça n'est pas de faire une recherche qui ait une certaine valeur étalonnable en tant que telle par rapport aux recherches déjà faites, par rapport aux produits de la recherche déjà faite. Ce qu'on attend de vous, c'est de montrer que vous avez compris ce que c'est la démarche de la recherche et que vous êtes capable par la suite de continuer à chercher, même si ce que vous avez trouvé n'est pas bon et même si vous n'avez rien trouvé par rapport à votre projet initial de recherche. C'est la démarche de recherche, ce sur quoi on va vous valider, c'est sur la démarche de recherche et non pas sur les résultats de la recherche. Tout ça, c'est à modéliser aussi par rapport à des exigences quand même de respect des normes de présentation des résultats de vos recherches, des non-résultats de votre recherche. Mais ça, c'est un problème que je n'aborde pas aujourd'hui. Ça ne concerne pas la méthodologie de la recherche, mais l'écriture et la présentation de la recherche. Donc, je continue sur ce tableau. Un objet compliqué, est un objet dont la description n'est pas actuellement disponible, que l'on ne comprend ni ne maîtrise encore parfaitement, mais dont on pense que cela sera possible, alors qu'un objet complexe est un objet dont on sait qu'on ne pourra jamais parvenir à une description globale, à une compréhension parfaite et à une maîtrise totale. Je crois que juste avant moi, avec Bernard Diderlé, et toute la journée précédente, avec les autres chercheurs qui sont venus vous présenter leurs recherches, je pense quand même que ce que vous aurez compris, c'est que la recherche, c'est une aventure, c'est un projet, et que ce dont il s'agit, c'est de montrer encore une fois qu'on est dans une démarche, de recherche. Même si l'on cherche à appréhender le plus possible, à maîtriser le plus possible, hein, c'est ce que disait, je crois, tout à l'heure, dans un document antérieur, Edgar Morin, on cherche la rationalité, mais on sait qu'elle nous échappe. On cherche la précision des concepts, mais on sait que cette précision nous échappe. On cherche un résultat, mais on sait très bien que plus que le résultat, ce qui importe, c'est la manière dont on s'est formé à générer éventuellement plus tard des résultats qui pourront de toute façon être aussi discutés, parce qu'ils seront discutables par d'autres chercheurs. Problème compliqué, problématique. Un problème compliqué est un problème dont on ne possède pas encore la solution. Une problématique est un problème complexe, c'est-à-dire dont on sait qu'il n'existe pas de solution, ou du moins qu'il n'existe pas de solution, etc., mais seulement des solutions. Je crois vous avoir déjà présenté à plusieurs reprises, si vous voulez, ce qui cette série d'adjectifs antagonistes qui définissent exactement, si vous voulez, d'un côté le paradigme de la simplification, solution unique, universelle, globale, permanente, et d'autre part le paradigme de la complexité. D'une part, encore une fois, on sait que s'il y a solution, elles ne seront que plurielles, partielles, locales et temporaires, et que on sait d'autre part que du point de vue de la compétence et non plus seulement de la performance, ce qui importe, c'est la capacité de questionnement plus que l'adéquation entre les réponses et les réalités. Voilà. Donc une problématique, on essaye de la gérer. Très concrètement, encore une fois, en didactique des langues, former un enseignant en didactique des langues, je vous ai dit que j'ai travaillé pendant 10 ans à l'IUFM de Paris, un enseignant formé en didactique des langues, c'est un enseignant qui ne perçoit plus, c'est un problème de paradigme, si vous voulez, hein, ne perçoit plus ce qui lui arrive, ce qu'il observe en termes de problèmes qu'il a à résoudre, mais en termes de problématiques qu'il a à gérer. Il va bien falloir qu'il apporte des réponses ponctuelles à des problèmes ponctuels. Mais au-delà, la manière dont il répondra ponctuellement à ces problèmes ponctuels sera déterminée de manière méta, si vous voulez, par le fait qu'il sait très bien que si ça marche à ce moment-là, ça n'est pas la réponse définitive. Ça n'est pas la réponse définitive. Je passe à la au document suivant, qui est le document numéro 10, qui s'intitule Théorie versus modèle tableau.rtf. Et le titre de ce document, une fois que vous l'avez ouvert, c'est Théorie externe versus modélisation interne en didactique des langues culturelles. Alors, c'est, si vous voulez, une sorte de synthèse, un peu plus théorique, épistémologique, de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, et qui renvoie en particulier à ce que Edgar Morin appelle d'un côté le paradigme scientifique et de l'autre côté le paradigme de la complexité. Donc, le paradigme scientifique correspond à ce qu'on appelle les théories externes, la connaissance comme représentation de la réalité. On essaye de décrire la réalité Le projet épistémologique, c'est d'arriver à comprendre la réalité telle qu'elle est en elle-même. Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que le composant ultime de l'univers, si vous voulez? Et en même temps, du point de vue méthodologique, j'aurais pu très bien mettre pouvoir de prédiction quelque part, ça n'apparaît pas. Il aurait fallu mettre une autre ligne qui aurait été évaluation. Comment est-ce qu'on évalue une recherche scientifique dans les sciences dures? C'est en termes de pouvoir de prédiction, c'est-à-dire est-ce que la même manipulation avec la même procédure aboutit exactement au même résultat. Ça n'est pas du tout le cas en didactique des langues, parce que comme on est complexité, comme on est dans la complexité, on n'est jamais exactement dans la même situation expérimentale. Et comme on est aussi dans la complexité, le problème est beaucoup moins d'approfondir une question. Vous voyez, la métaphore du pointu. On creuse parce que on se dit qu'au fond du puits est la vérité. Voilà. La logique, en tout cas dans ma discipline, et je crois aussi que dans l'ensemble des sciences humaines, en tout cas il y a un certain nombre de sociologues, non pas qui sont d'accord avec moi, ce serait prétentieux, mais sur lesquels je me retrouve en termes de conception épistémologique, dans un ensemble de sciences humaines, le problème est beaucoup moins d'approfondir, de creuser un problème précis, que d'avoir une appréhension la plus large possible de la réalité. Comprendre, avoir une perception compréhensive d'un ensemble d'éléments plus large possible. Le projet qui me semble que vous devez avoir dans votre recherche n'est pas de creuser un petit point très précis sur lequel vous allez vous retrouver comme un spécialiste, mais plus votre sujet est précis, plus votre compétence de spécialiste sera liée à des connaissances, en fait, et non pas à de la compétence. La compétence d'un spécialiste, en tout cas dans nos disciplines, elle est liée à sa capacité à chercher dans d'autres domaines. Et ça renvoie à votre stratégie. Paradoxal un petit peu, il faut en même temps, parce que vous êtes enseignant, parce que vous êtes chercheur débutant, il faut en quelque sorte vous faire les dents, il faut vous frotter aux concepts, essayer de les faire fonctionner, essayer de faire quelque chose d'original, alors que vous êtes chercheur débutant, donc l'originalité, ça va être sans doute ça risque d'être de la spécialisation, c'est-à-dire vous allez aller plus loin sur un sujet plus limité que personne n'est allé. Parce que même les grands référents de votre discipline n'ont jamais eu le temps d'aller aussi loin dans un sujet aussi limité. Donc il y a cette logique de l'approfondissement, de la verticalité, qui est une logique à la fois stratégiquement compréhensible, où vous créez votre propre spécialité par rapport à des spécialistes qui existent déjà, et qui a aussi sa légitimité dans le fait que c'est en approfondissant un sujet que vous pouvez à la fois montrer que vous êtes capable d'utiliser des concepts entre guillemets pointus, justement. On retrouve cette même métaphore de la verticalité, et que en même temps vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin que ceux qui, parce qu'ils balisaient un peu plus large que vous, n'ont jamais approfondi autant dans votre petit sujet. Voilà, ça c'est une chose, et puis en même temps, il y a une autre logique, qui est celle de la logique de la complexité d'une part, qui est que le complexe c'est l'horizontal, c'est le balisage le plus large possible, c'est l'appréhension la plus large possible, et donc par rapport aux sciences humaines, par exemple, aux sciences exactes, pardon, on a l'impression d'être très superficiel, mais je crois qu'il faut... De la même façon que les chrétiens ont repris le terme de chrétien qui était une injure à leur propre terme, Je crois que le terme de superficiel devrait quelque part être repris aussi comme une espèce de bannière. Celui qui est superficiel, c'est aussi celui qui est capable de baliser un terrain le plus large possible. Et encore une fois, la limitation du domaine sur lequel on travaille, qui implique un étalement superficiel, entre guillemets, horizontal, ou un approfondissement vertical, c'est une question de stratégie de carrière, c'est clair, de rapport avec votre directeur, mais c'est aussi une question épistémologique fondamentale, c'est-à-dire c'est lié à la pertinence. Je vais prendre l'exemple d'une carte géographique. J'ai une maison en Ariège. Si je veux faire une balade que je n'ai jamais faite à 10 km à la ronde autour de chez moi, je vais prendre une carte au 10 millième ou au 25 millième, des cartes IGN au 25 millième. Ce sont des cartes extrêmement précises. Cette carte au 25 millième qui me permet de repérer des monticules, qui me permet de voir, on y repère le type de végétation, il y a les courbes de niveau qui sont tout à fait repérables, et puis là, lorsque vous vous déplacez, vous avez l'impression que la carte, vraiment, vous vous promenez dans la carte. Vous promenez dans la carte. Hein, où la carte représente la réalité dans laquelle vous vous promenez. Si vous voulez faire un voyage, si vous voulez faire un parcours en voiture, ce type de carte, non seulement ne vous sert à rien, mais vous dessert. Donc, l'approfondissement peut être adéquat à un certain moment, et à un autre moment, ce qui est pertinent n'est pas l'approfondissement, mais au contraire, la surface. Et je prends toujours l'exemple, parce que j'ai déménagé très souvent, et donc j'ai eu à décrocher des tableaux, enlever des clous et puis en remettre là où j'étais. Le problème n'est pas de savoir, il ne s'agit pas seulement d'être capable d'enfoncer un clou le plus profond possible, il faut quand même savoir où vous l'enfoncez, et pour savoir où vous l'enfoncez, il faut avoir une vision globale de votre mur, et cette vision globale de votre mur, il faut qu'elle soit complétée par rapport à la fonction correspondante, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire de ce clou. Ça ne sert à rien d'être capable d'être extrêmement pointu dans un domaine si, par ailleurs, ça n'est pas complété par une vision d'ensemble de qu'est-ce que ce trou-là et qu'est-ce que ce qu'on y cloue permet de faire avancer par rapport à d'autres. La dimension qui est intégrée ici, de façon à partir de la métaphore, c'est la relation de la recherche avec les autres recherches. Votre recherche à vous se situe par rapport à des recherches antérieures, et elle doit aussi, au moins dans l'idée, un chercheur, c'est aussi quelqu'un qui se pose le problème de qu'est-ce que ma recherche peut apporter aux autres chercheurs. Sauf à vous limiter à la question de qu'est-ce que ma recherche peut m'apporter à ma carrière personnelle, à l'université. C'est aussi un élément important, mais ce n'est pas la question que j'aborde ici. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins dit ce que je voulais sur ce fichier numéro 10, beaucoup plus que j'en ai dit ce matin en présentiel. Et par contre, ce que j'ai abordé ce matin en présentiel, c'est la question des concepts de la recherche. De la même manière qu'un artisan travaille avec des outils, qu'un informaticien travaille avec des logiciels, un chercheur travaille avec des concepts. Je relis, comme je l'ai fait ce matin, la notion de concept à la notion de complexité. Les réalités concrètes sont immensément multiples, variables, interreliées, etc. Je vous renvoie aux notions de la complexité. Et donc, vous ne pouvez les accéder qu'en termes de recueillement brut. comment est-ce que vous allez construire une recherche à partir de ces données premières. Alors la métaphore que je prends souvent, que j'ai prise ce matin avec, j'allais dire avec vous, avec ceux qui étaient présents ce matin, parce que j'ai déménagé aussi souvent, c'est la métaphore du déménageur. Un déménageur est confronté au problème de la complexité. C'est vraiment l'un des métiers où on est confronté le plus au problème de la complexité. Imaginez-vous rentrant dans votre appartement avec les différents meubles, les objets que vous avez dans les différentes pièces, et posez-vous la question de comment on met tout ça en ordre et comment on fait bouger tout ça en même temps. Une recherche, on fait bouger des choses. Alors qu'est-ce que fait un déménageur? C'est qu'il repère des classes d'objets et il les met dans des boîtes spéciales. Et les boîtes sont elles-mêmes éventuellement contenues dans d'autres cartons. Les cartons, ça finit éventuellement dans des containers. Une fois qu'il a constitué une boîte avec, par exemple, des poteries, au moment où il va déménager, où il est dans une autre logique, qui est une logique méta, il n'est plus en train de classer, de mettre les objets dans les boîtes, mais il est en train de les mettre dans le camion. C'est une logique différente. Donc, professionnellement, ce qu'il lui faut, c'est d'arriver à un moment où il ne manipule pas les objets concrets eux-mêmes, mais les boîtes. La boîte appelée couvert, la boîte appelée potiche, la boîte appelée document papier. Voilà. Parce qu'au moment où il déménage, l'économie cognitive et l'efficacité veut qu'il ne manipule pas des objets concrets, mais des boîtes dans lesquelles il a mis des objets qui tiennent ensemble. C'est la métaphore du concept. Un concept, c'est une boîte dans laquelle on fait tenir des objets qui peuvent être extrêmement différents. Avoir acquis le concept de poignée, ça vous permet dans n'importe quel pays du monde, quand vous êtes dans une pièce, de repérer la porte. Il faut avoir acquis aussi le concept de porte, excusez-moi, vous avez acquis le concept de porte et le concept de poignée. Vous êtes capable dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quel lieu où vous êtes, de repérer la porte et de repérer la poignée et ce qu'il faut faire sur la poignée pour sortir. Voilà, si vous voulez, la puissance du concept qui ne s'oppose pas du tout à la compétence professionnelle, mais qui est la condition même de la compétence professionnelle, en tout cas dans ma discipline, puisque les contextes changeant constamment, la forme de la porte et la forme de la poignée, si vous voulez, changeant constamment dans une classe de langue, si vous n'avez que dans votre compétence que des représentations concrètes de tel type de poignée et de tel type de porte, eh bien il y a des portes que vous ne voyez pas, et il y a des portes que même si vous voyez, vous ne voyez pas la poignée, et des portes où vous voyez la porte et la poignée, mais vous ne pouvez pas l'ouvrir. Ce que je voudrais vous faire passer, si vous voulez, comme idée, c'est le fait que le concept n'est pas un jeu intellectuel, et que c'est la seule manière que l'on ait imaginée pour l'instant, et qui soit imaginable, de manipuler de façon efficace un ensemble de données concrètes, au niveau desquelles, si vous restez au niveau de ces données concrètes, vous êtes absolument perdu dans la complexité. Donc, l'opération essentielle du chercheur, c'est une opération de mise en boîte, dans le sens où vous le comprenez maintenant, c'est-à-dire de conceptualisation. Alors, l'outil essentiel est, comme je vais le dire tout à l'heure, l'un des objectifs essentiels de la recherche, c'est l'outil même de la recherche. Je reviens à cette idée de caminante, no hay camino, chasse el camino al andar. L'objectif de la recherche, c'est à la fois, bien sûr, ce que l'on cherche à la fin, mais aussi le fait de s'entraîner à la démarche même de la recherche et de se créer, d'affiner, de rendre plus efficaces les outils même de la recherche. Donc il y a une logique produit dans la recherche et à la fois une logique processus. À la fin de la recherche, vous allez être évalué sur quoi ? Sur la qualité du travail final ou sur le fait que vous avez démontré que, même si le travail final n'est pas très bon, vous avez cherché véritablement. C'est-à-dire que vous vous êtes formé à la recherche par le processus même de la recherche. C'est une des caractéristiques de l'université française, et qui me semble très bonne, c'est de dire que la recherche se fait fondamentalement par la formation à la recherche. C'est-à-dire que l'objectif de la recherche est le processus même de la recherche. Alors, je reviens, si vous voulez, à ces outils même de la recherche que j'ai appelés les concepts. Dans mon cours de formation à la méthodologie de la recherche, en didactique du français langue étrangère, il y a un chapitre qui est consacré à ces outils de la recherche, à savoir les concepts. Et je fais la distinction qui me paraît pertinente, mais c'est à vous de me dire si dans votre discipline elle est pertinente, ça m'étonnerait fort qu'elle ne le soit pas, faire une distinction donc entre ce que j'appelle les concepts génériques et les concepts spécifiques. Les concepts, donc j'appelle le fichier concept générique, c'est le concept qui s'appelle, enfin le numéro c'est le numéro 11 et il s'appelle concept générique recherche.doc. Voilà. Donc, maintenant, comme je l'ai fait ce matin, je ne vais ni commenter en détail, ni lire d'ailleurs ce fichier, qui est un fichier relativement long, qui est un fichier explicatif, mais il me semble, c'est à voir avec votre directeur de recherche, que une recherche, alors peut-être que sur le premier concept, je serai assez, peut-être plus réservé, en tout cas en didactique des langues, une recherche, ça part forcément d'un constat, c'est-à-dire d'une sorte d'évaluation de ce que c'est soit le terrain, soit l'état actuel de la recherche. On se dit, par exemple en didactique des langues, j'étais enseignant, j'ai eu un problème, j'arrivais pas à motiver mes étudiants pour les faire travailler sur la compréhension orale. Donc voilà, il y a un problème de motivation en didactique scolaire en France pour faire travailler les élèves sur la compréhension orale. Je pars de ce constat. Et c'est à partir de ce constat-là que je vais construire, que je vais choisir mon sujet, définir ma thématique, élaborer ma problématique, et ensuite l'ensemble de ma recherche, puisque c'est un petit peu cela, si vous voulez, les différents passages, sinon obligés, du moins génériques. Hypothèse, voilà. La hypothèse, je passe très rapidement, vous avez en dessous, je crois, quelque part, question de recherche, non, ah bah, après hypothèse, j'aurais pu mettre hypothèse après postulat. Je crois que c'est classé tout simplement par ordre alphabétique, voilà. Vous lirez ce qu'il y a sur l'hypothèse, vous lirez ce qu'il y a sur postulat, vous lirez ce qu'il y a sur prémisse. J'attire simplement votre attention sur le fait que toute recherche s'inscrit forcément dans des recherches antérieures et dans des paradigmes contemporains. C'est-à-dire que le paradigme, ça renvoie à des postulats. Il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, on a dit à une certaine époque, en didactique du français langue étrangère, il est évident que enseigner, c'est enseigner à communiquer. Donc il est évident que pour enseigner à communiquer, il faut faire communiquer en classe. Ben voilà, c'est une évidence, mais c'est comme toutes les évidences, elle n'est partagée que par ceux qui sont dans ce cadre d'évidence. Et le cadre d'évidence, c'est ce qu'on appelle justement un paradigme, dans le sens de Thomas Kuhn, que je crois vous avez en bibliographie. Voilà. Les prémices, c'est ce que on va considérer comme ayant déjà été démontré par des chercheurs antérieurs sur lesquels on s'appuie. Vous avez ensuite des principes, vous avez ensuite, je fais défiler rapidement, eh bien, principe, il y en a beaucoup, dites donc. Qu'est-ce qu'il y a après principe? Il y a problématique. Voilà, et eh bien problématique parce qu'elle apparaît là par ordre alphabétique. J'ai parlé beaucoup jusqu'à présent de la problématique. Donc je vous invite à relire si vous voulez ce texte. Encore une fois, je le présente ici avec quelques réticences parce que ce n'est pas forcément les concepts qui sont très purs en termes de, philosophie. Peut-être qu'un philosophe pourrait me critiquer là-dessus. Et surtout, ils n'ont peut-être pas d'interprétation et de mise en œuvre tout à fait équivalente entre des domaines de recherche et d'autres, entre les différentes disciplines dont vous relevez. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ces différents concepts, ce que représentent ces différents concepts, et en même temps je vois question de recherche, puis ensuite thèse, ces différents concepts, qu'on les nomme différemment ou pas, correspondent à un questionnement et à un positionnement initial dans la recherche qui me semble totalement incontournable. Quelle que soit la manière, encore une fois, dont on les nomme, et quelle que soit la manière dont, dans les différentes disciplines, on les définisse. Je vous ai parlé, c'était le fichier numéro 11, des concepts spécifiques, des concepts, pardon, génériques. Et donc, maintenant, ce que je suis en train de commenter, c'est le fichier numéro 13, qui sont les concepts spécifiques. Vous lirez ce texte qui me paraît relativement assez clair, et il est clair justement que par rapport à votre sujet thématique et problématique de recherche, il y a un certain nombre de concepts qui se révèlent tout à fait centraux. Ces concepts-là, qui sont des concepts spécifiques, vont devoir faire l'objet d'un traitement un peu plus complexe que les concepts génériques qui peuvent être considérés, encore une fois, même si d'une discipline à l'autre, en tout cas dans chaque discipline, ces concepts génériques peuvent être considérés légitimement comme stabilisés. Ils devraient être stabilisés. Par contre, les concepts spécifiques de la recherche, eh bien, font partie même des objets de la recherche. L'une des caractéristiques de la complexité de la recherche dans les sciences humaines, c'est que, en même temps que l'on utilise les outils pour questionner, on questionne les outils. Il y a une sorte d'effet récursif, si vous voulez, parce qu'on n'est pas sûr, étant donné la complexité, que les outils que l'on utilise sont les bons outils. Et donc, en même temps qu'on les utilise sur le domaine de recherche, récursivement, on se demande constamment, on s'interroge constamment sur ces outils, effectivement, tels qu'on les utilise, montrent qu'ils sont efficaces ou pas, et s'il faut les changer ou pas. Donc, dans ce fichier sur les concepts spécifiques de la recherche, je vous ai donné quelques exemples qui sont de ma propre discipline, mais encore une fois, c'est à vous à transposer et éventuellement à interroger vos directeurs de recherche correspondants. Ce sur quoi je vais terminer, comme j'ai terminé ce matin, c'est justement sur un développement de la réflexion concernant ces concepts spécifiques qui, encore une fois, sont à la fois des outils et des objets de la recherche. L'évaluation d'une thèse, l'un des critères essentiels de l'évaluation d'une thèse, au-delà du résultat du travail qui a effectué, c'est la qualité de la réflexion, voire des propositions concrètes de modification des outils qui ont été utilisés pour y arriver. Alors, vous avez un fichier qui s'intitule 15 concepts niveau maîtrise doc. Donc c'est une modélisation. Une modélisation parce que forcément, je suis en train de parler de l'ensemble de la conception de la formation à la recherche que l'on peut avoir dans l'université française. Donc on ne peut parler que de modélisation. Je parle de niveaux de maîtrise conceptuelle différentes. À un premier moment de la recherche, ce que votre directeur peut exiger, et ce premier moment de la recherche peut d'ailleurs être à l'intérieur même de votre recherche en master 2 recherche, en mémoire, en mémoire de recherche. Encore que dans certaines disciplines, on peut considérer que justement la fonction de la stabilisation de cette relation concept-produit devrait être déjà mise au point au niveau de la maîtrise, ce qu'on appelle le master 1. Mais moi je parle à partir d'une discipline, le français langue étrangère, qui n'a ni licence ni master 1. Donc on débarque, enfin, le master 1 est orienté professionnel, n'est pas orienté recherche. Donc c'est, la recherche se fait directement au niveau du master 2. Concept produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont trois exigences qui à la fois font partie de l'évolution de la formation d'un chercheur et qui en même temps, on est sur la complexité, sont constamment exigibles de lui-même. Alors que même ces exigences sont contradictoires. La première exigence, c'est que un jeune chercheur, s'inscrit dans une perspective disciplinaire où il y a déjà eu toute une série de recherches, ce que Bernard Diterlet ce matin, ou je crois Bernard Vray hier, appelait les connaissances encyclopédiques, l'encyclopédie, qui permettent par exemple de repérer l'intertextualité. Bah, les mêmes connaissances encyclopédiques dans sa discipline permettent de fonctionner sur la base de concepts qui sont déjà plus ou moins stabilisés, partagés par tout le monde et utilisés depuis longtemps par tout le monde. C'est ce que j'appelle les concepts produits. Il s'agit là d'exiger de l'utilisateur, en particulier en l'occurrence de l'enseignant, de montrer qu'il a parfaitement compris ce concept et qu'il est capable de l'utiliser avec exactitude. Lorsqu'il dit intégration didactique, lorsqu'il dit pédagogie ou didactique, bon, il utilise ces mots dans le sens qu'il aurait reconnu plus ou moins par l'ensemble des chercheurs ou des référents de la discipline dans laquelle il s'inscrit. Il y a ensuite un deuxième moment qui correspond en fait à ce que les pédagogues ou les cognitivistes appellent la connaissance déclarative et la connaissance procédurale. Dans la connaissance déclarative, le 1, concept produit, ce qu'on va repérer, c'est que le concept, dans le contexte où il est utilisé, il est correct. Voilà. Il utilise un concept, et effectivement, au moment où il l'utilise, c'est bien ce concept-là et pas un autre qu'il fallait utiliser. Le deuxième niveau d'exigence en termes de formation à la recherche, c'est ce que j'appelle le concept processus. C'est-à-dire, ce sont toujours des concepts qui ont été forgés par d'autres, qui sont hérités, et c'est tout à fait logique, parce qu'encore une fois, on s'inscrit dans une histoire de la discipline et dans un certain nombre d'acquis de la discipline, même si ces acquis peuvent être remis en cause, mais là on est au niveau 3 ou au niveau 4. Lorsqu'il y a des ruptures qu'on appelle épistémologiques, ce serait plutôt le niveau 4, là, hein, qui n'apparaît pas ici. Donc au niveau 2, ce qu'on va demander à un chercheur, c'est d'être non seulement capable d'avoir compris le sens d'un concept et de l'utiliser dans le bon contexte, mais surtout de savoir le mettre en œuvre en tant qu'outil dans ses propres recherches. Donc là, on est sur un critère d'évaluation qui est celui de la pertinence. Voilà. C'est pas qu'il ait utilisé le concept dans le bon sens, standard, c'est que ce concept qu'il a hérité, et avec lequel que l'on partage, bah, lui a permis de faire des choses intéressantes, effectivement. Donc il est un bon artisan de sa corporation, en quelque sorte. Voilà, concept processus. Et puis, dans une troisième phase, qui est plutôt celle de la thèse, Mais il y a des gens qui sont précoces, puis il y en a aussi qui traînent et qui, même dans la thèse, n'arrivent pas à ce niveau du concept construit. Eh bien, et je reviens sur la notion de la complexité. On arrive à la position d'un chercheur, si vous voulez, qui a vu des choses, qui a perçu des choses tellement différentes, ou qui a élargi tellement la vision, l'appréhension qu'il a de son domaine de recherche, que, en quelque sorte, les outils de perception, les outils d'analyse, d'interprétation dont il a hérité, eh bien, ces outils-là se révèlent insuffisants. Et donc, pour aller plus loin dans cette appréhension plus globale d'une réalité complexe, il a été obligé de se forger de nouveaux outils. C'est la notion de concept construit. Voilà. Sur à peu près 200 thèses, non pas que j'ai dirigées, mais entre celles que j'ai dirigées et celles auxquelles j'ai assisté à la soutenance, je crois qu'il n'y en a pas 2%, 3% où j'ai réellement vu un concept construit. Donc ça apparaît relativement peu. Je ne suis pas sûr moi-même d'avoir introduit un concept qui fera date dans ma propre discipline. Et puis il y a un niveau 4 qui n'apparaît pas ici, dont je n'ai pas parlé non plus ce matin, qui est un niveau complètement différent, puisque ce n'est plus un niveau de maîtrise conceptuelle, mais un niveau de déstructuration complète. Non pas forcément de tel ou tel concept, mais des réseaux conceptuels, des cartes conceptuelles dans lesquelles ils appartenaient. Et c'est la notion de révolution épistémologique. Bon, j'en ai pas parlé ce matin, je ne vais pas le développer non plus ici, parce que ça n'est pas le moment. Je voudrais terminer seulement par deux choses. La première chose, c'est que la recherche n'est pas bien un saut qualitatif, si vous voulez, par rapport à ce que vous avez fait précédemment à l'université, où vous étiez dans une culture de la réception et une culture de l'individualisation. Vous montrez que vous-même, vous avez bien reçu et que vous êtes capable éventuellement de réutiliser des concepts qu'on vous a transmis. La logique de la recherche est une logique de la créativité et donc une logique du risque. Et c'est pour cela que la logique de la recherche est une logique collective. C'est pas par hasard si les chercheurs se rencontrent dans des colloques, dans des séminaires, dans des congrès. Ce que je vous ai dit de la diversification des perspectives pour regarder le même objet, la diversification des méthodes et des démarches pour travailler sur le même objet, cette idée de diversification, il faut aussi en prendre compte au niveau même de la conception de la recherche, c'est-à-dire que jusqu'à présent, mais en sciences humaines encore c'est vrai, mais ce sera de moins en moins vrai, le chercheur s'inscrit non seulement dans la perspective historique des recherches antérieures, mais aussi dans le réseau de chercheurs dont ils font partie. Personne ne peut avoir la bonne perspective, ou même diversifier de la meilleure manière ses propres perspectives sur un objet de recherche. On est toujours dépendant d'un tas de choses personnellement. Et donc, l'appréhension de la complexité exige aussi la mise en commun, la conception de d'une recherche qui soit une recherche collective. Voilà, je voulais terminer par cette idée en souhaitant à tous une bonne année de recherche et un succès dans votre recherche de cette année et dans votre carrière de futur chercheur.